Bonjour François.
Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 68 de La Jeune Occasionnée. Comme on se l'était dit la dernière fois, il n'y a aucun film en salle qui a retenu notre attention.
Ouais.
C'est donc l'occasion de revenir sur une œuvre qui contient quasiment aucune fausse note.
Oui, parce que ça parle de musique.
De musique classique.
Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire Ferrari de Michael Mann, que j'ai vu.
Ah, tu l'as vu?
Ouais.
Ouais.
Mmh, on aurait
alors,
pu.
Qu'est-ce que t'en penses?
On aurait pu le faire. Puis finalement, on le fait pas. Pourquoi? Va savoir.
Ouais. Alors, Tar, c'est un film qui a d'ailleurs été désigné meilleur film de l'année 2023 du côté des critiques de nos amis du Cercle, l'émission de
Ah, c'est cinéma. Vrai, il l'avait mis en 1?
Ouais.
Ah, d'accord. Ben, moi, je l'aurais mis en 1 si je l'avais revu au moment où on a fait notre top 5.
Ouais.
Ouais.
Ben, sans plus tarder, on se penche sur le troisième long métrage donc, du réalisateur américain Todd Field. Lydia Tarr, c'est un grand nom de la musique classique contemporaine. Chef d'un orchestre philharmonique, Tarr vit entre New York et Berlin, entre masterclass et enregistrement. 15 ans après son deuxième film, Todd Field compose pour Cate Blanchett un rôle sur mesure, où exigence artistique et abus de pouvoir s'interfèrent, ce qui nous donne une mise en scène où la tension est à la baguette.
Mmh, baguette, chef d'orchestre, et non pas baguette boulangerie.
Non,
l'héroïne n'est pas boulangère, elle est chef d'orchestre.
Pas baguette de magicien non plus.
Non plus, pas baguette peut-être de restaurant chinois. Voilà. Bon, on a fait le tour sur les baguettes ou on peut y aller, c'est bon?
On ouais. y va, on y va.
Donc, alors, le film n'est pas exactement un biopic, puisque biopic, on resitue la vie de quelqu'un de connu. Et là, c'est simplement inspiré probablement de certaines chefs d'orchestre. En revanche, c'est un film qui met au centre de son récit un artiste, en l'occurrence une artiste. Bon, c'est intéressant, hein, ça, il y aurait une thèse à faire sur les personnages d'artistes au cinéma. Là, c'est une musicienne, une chef d'orchestre, une maestro, elle ne veut pas qu'on l'appelle maestra, c'est intéressant. Alors, il arrive assez souvent que dans les films qui tournent autour d'un artiste, les producteurs ou le réalisateur ou la réalisatrice ou les scénaristes aient peur de leur sujet. Ils mettent en scène des artistes et ils ont peur de parler d'art, sans doute par le présupposé que l'art serait clivant, que ça ennuie les gens, que c'est trop compliqué, voilà. Donc on en a eu un exemple récent avec le film de Bradley Cooper qui s'appelle Maestro, et qui était un biopic,
biopic
pour le
biopic de Leonard Bernstein.
Voilà, un grand musicien du XXe siècle.
Qui a fait West Side Story.
Par exemple, qui a composé West Side Story.
Et qui était un grand fan de Gustav Mahler aussi d'ailleurs.
Tout à fait. Bon, et alors, c'est vrai que dans Maestro de Bradley Cooper, bah, tous les efforts avaient été produits par les scénaristes et par le réalisateur pour que surtout il ne soit jamais question de musique, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Donc on avait trouvé un autre récit à faire qui était plutôt celui de la double vie de Leonard Bernstein, qui était une espèce d'homosexuel un peu honteux, en tout cas relativement dissimulé. Double vie qui mettait plutôt en scène sa femme et comment sa compagne de toujours arrivait à supporter ça. Et donc, bon, voilà, c'est toujours très étonnant de voir des gens qui ont l'air comme ça d'être suffisamment intéressés à la musique pour en faire un film et qui... au dernier moment d'écrire, font tout pour que la musique soit reléguée hors champ. Bon, c'est pas du tout le cas de Todd Field, et c'est déjà une des grandes qualités de ce film, qui regorge de qualité, c'est de ne pas avoir eu peur de la musique, et en plus de la musique qui est sans doute la plus clivante de nos jours, c'est la musique classique, qui peut faire peur. C'est très impressionnant, la musique classique. Eh bien, Todd Field n'a pas eu peur. Il y a quand même énormément de scènes qui sont consacrées à la musique, soit par la parole, soit par l'exécution même. On voit des répétitions, on voit des bouts de concert. Voilà. Et il est vraiment question de musique, notamment dans la première masterclass là, qui ouvre pratiquement le film. Donc ça, c'est déjà quand même une chose à mettre à son crédit. Après, on a affaire à une artiste. Bon. Alors, des artistes femmes, on en a vu pas mal récemment, évidemment, au cinéma, dans le mouvement qu'on pourrait appeler globalement féministe ou néo-féministe, ça dépend des... chacun dit comme il veut. C'est normal, ça fait partie de l'effort féministe de promouvoir des femmes artistes, là où elles ont été pendant des siècles et des siècles invisibilisées, et donc c'est intéressant de leur refaire droit au fait que des femmes ont été des grandes artistes.
Et même plus généralement des grands personnages féminins au cinéma.
Voilà, c'est ce qu'on, ça s'inscrit un petit peu dans cette entreprise-là, qui est plutôt une entreprise vertueuse, je veux dire, qu'on accompagne et qu'on reçoit avec une certaine bienveillance. C'est vrai qu'on nous raconte souvent dans ces biopics ou ces films qui mettent au centre une femme artiste comment ça a été dur pour elle, précisément en tant que femme, de s'inviter dans un jeu qui refusait les femmes. Beaucoup d'arts ont été très largement sous domination masculine pendant des siècles et des siècles, et encore maintenant, un peu moins maintenant, mais longtemps. Donc ça va être souvent ça, la trame scénaristique de ces films-là, c'est comment peu à peu, à la force de ses bras, une femme artiste arrive à s'imposer, à la seule force de son talent, dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Et il se trouve que Tarr, c'est pas ça du tout, puisque nous commençons le film au moment où Lydia Tarr est absolument connue. Elle est en position de pouvoir, on va dire, pour l'instant. Elle est reconnue, elle est célébrée, elle a un poste éminent à
la Philharmonie.
Ou en tout cas, c'est pas nommé comme tel, mais on comprend que c'est
l'équivalent. Quoi.
C'est à ça qu'on fait allusion, puisque ça se trouve à Berlin, un grand orchestre, une institution extrêmement noble, dont elle est à la direction. Elle est directrice musicale, mais on verra qu'en fait, c'est direction tout court, d'une certaine manière. Donc, on nous raconte pas ça. On nous raconte pas que pour elle, ça a été dur d'en arriver là en tant que femme, puisqu'elle est déjà dans cette position-là. Et elle, d'ailleurs, a une position, je dirais, alternative sur cette question-là. Il y a deux ou trois éléments dans le film, à travers la masterclass où elle est interviewée, à travers deux ou trois propos qu'elle tient, où à la fois, elle nie un peu que ça puisse avoir été un problème d'avoir été une femme pour percer comme elle a percé. Mmh. Par exemple, elle dit qu'elle a beaucoup plus été emmerdée quand il s'est agi de diriger du malheur par des gens qui lui disaient « Non, mais une juive ne peut pas comprendre la musique d'un juif ou une musique dite juive. » Elle dit ça à un moment avec un de ses mentors qui est un ancien chef d'orchestre. Voilà. Et là, elle ne va pas du tout dire que c'est en tant que femme qu'elle a eu des difficultés. En même temps, nous apprenons qu'elle a co-créé une sorte de fondation.
Une bourse aussi, une bourse d'étudiants.
Alors, c'est quelque chose comme ça qui fait une espèce de discrimination positive et qui pratique la non-mixité. C'est-à-dire qu'on va prendre que les femmes pour pouvoir booster un peu plus la place des femmes. Et donc, elle fait partie de ça. Donc, il semblerait qu'elle en ait un tout petit peu le souci. Et en même temps, on la verra dans le même film, on parle d'un film, dire « Ouais, on va peut-être renoncer maintenant à la non-mixité. On va peut-être ouvrir un peu aux hommes. »
Dans le deuxième grosse conversation avec un autre chef d'orchestre.
Absolument. Comme si ce n'était pas quand même son cheval de bataille, quoi. Donc, on commence à émerger dans le film le fait que finalement, la cause féministe lui importe peu. C'est pas vraiment son truc. C'est pas au cœur de... Bon, alors venons-en tout de suite au fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soit ont rechigné à aller au-devant de ce film, soit l'ayant vu, l'ont un peu frappé de nullité, ou en tout cas lui ont opposé une fin de non-recevoir, dans la mesure où il semblerait que ce film soit anti-féministe. Ou en tout cas... montrerait une certaine réserve par rapport à ce paradigme-là. Alors oui, parce que qu'est-ce qu'on voit dans le film ? On voit une femme en position de domination. Alors on pourrait dire que c'est un coup enfoncé contre le féminisme, parce que le discours implicite serait de dire, finalement, le problème, c'est pas les hommes, c'est pas vraiment une question de genre, c'est une question de pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que mettez une femme au pouvoir, ben finalement... Elle commet les mêmes exactions, les mêmes entreprises prédatrices. Ouais. Que Lydia semble pratiquer à l'envi. Alors c'est vrai qu'on peut avoir cette première lecture-là, auquel cas on pourrait associer ce film à une sorte de backlash réactionnaire, un retour du bâton, une sorte de panique morale, comme on dit, à savoir, oui, ça suffit maintenant, les féministes qui n'arrêtent pas de nous dire qu'en fait, le monde est un monde d'hommes. Oui, mais regardez, finalement, il y a des femmes qui ont du pouvoir, et finalement, le problème n'est pas là, le problème est le pouvoir. Bon, alors... Est-ce que véritablement ce film mérite ce procès qu'on lui ferait ? Premièrement, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que ce qu'on va essayer de dire ici, c'est à quel point ce film est grand. Si, par exemple, il est avéré que ce film est antiféministe, ça ne peut pas être une bonne raison de ne pas le voir. Je veux dire, quand bien même on serait, comme c'est le cas de toi et de moi aussi, très concerné par la cause féministe, on l'a souvent d'ailleurs montré dans pas mal d'analyses de films qu'on a pu faire, ou même de livres, quand bien même on serait impliqué là-dedans et qu'on serait très soucieux de ce paradigme-là et de le développer et d'y apporter notre tribut, ça ne sera jamais une bonne raison de refuser, un, de le voir, et l'ayant vu, de refuser l'évidence de sa grandeur, en tout cas l'évidence de son talent. Or, il semblerait que ce soit le cas de beaucoup de gens. Bon, ben, je le déplore. Mais en deuxième analyse, je dirais aussi... Je ne crois pas que le film soit antiféministe. Moi, je crois que simplement, il déplace la question vers la question de la domination, qui est finalement la question un petit peu englobante du féminisme. Le féminisme, ce n'est pas les femmes contre les hommes. Ce n'est pas d'incriminer les hommes en tant qu'hommes, sinon ça s'appellerait de l'essentialisme. Ce qu'il s'agit de dénoncer, c'est la domination en tant que telle, qui se trouve être souvent une domination des hommes sur les femmes, puisque les hommes occupent, en général, les postes de pouvoir.
Bon. Et qui est une question structurelle, au final.
Qui est une question structurelle, et de fait, le film déplace la question vers une problématique structurelle, beaucoup plus qu'une problématique, je dirais, essentialiste de genre. Mmh. Le film va essayer de nous montrer qu'en fait, c'est le pouvoir qui crée l'abus de pouvoir, qu'il soit occupé par une femme ou par un homme. Et donc, je pense qu'il continue, d'une certaine manière, l'effort réflexif du féminisme, mais par ses propres moyens, en décalant un peu les choses. Donc, ce qui compte ici, c'est la fonction. C'est la fonction qui fait l'abus. C'est ça que veut cibler le film. Et d'ailleurs, il commence par mettre en évidence le fait qu'on a affaire à une fonction, à quelqu'un qui occupe une position. Parce que ça commence comme ça, en fait. On a Lydia Tarr qui est en coulisses. Ouais. Elle va rentrer sur scène.
Et même dans un jet, d'ailleurs.
Alors, il y a le premier plan de portable, mais ça, c'est presque un plan prologue. Ouais. Mais le film commence vraiment La première scène, c'est
couloir, ouais.
La masterclass qu'elle va
j'en
donner.
Parlerai, ouais.
Et d'abord, elle attend de rentrer en scène parce qu'on est en train de la présenter, etc. Bon, cette scène d'ouverture est d'abord magistrale. Il faut bien le dire parce qu'il s'y joue beaucoup de choses en même temps. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on a à la fois le speech du mec qui va l'interviewer pour le New Yorker. Enfin, c'est un journaliste du New Yorker qui organise cette masterclass et qui est déjà en train de faire une espèce de portrait de Didiatar, ce qui est une façon très habile de nous la présenter. Donc ça, je le dis. Mm. C'est entrecoupé d'images.
Chez le tailleur.
Chez le tailleur, on est en train de lui tailler un costume, mais pas au sens figuré du terme. On est en train de lui faire un costume sur mesure.
Chez Egon Brandstetter.
Ça, je ne savais pas. Je suis beaucoup moins porté sur la belle sape que toi, parce que toi, tu es un bourgeois, alors que moi, je m'habille simple, comme les gens d'en bas. Non, mais c'est tout de suite mettre en évidence que la position qu'il occupe, c'est un costume qu'on endosse. C'est ça les positions sociales, c'est pas essentialiste. Il y a des positions, on les adopte. Et pour adopter des fonctions et des positions, ben, faut d'abord en prendre le costume. Alors c'est évidemment à la fois à ce moment-là une façon de signifier que Cate Blanchett, l'actrice, entre dans le costume de Lydiatar. Parce que oui, elle a fait évidemment un gros travail d'incarnation, mais ce qui est frappant, c'est à quel point le travail de Cate Blanchett a été beaucoup porté sur les tenues, les postures. Et les tenues, c'est aussi des vêtements. Elle s'est constituée une espèce de garde-robe un peu masculine, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs. Ouais. Enfin,
ce qui irait bien avec un personnage qui, effectivement, ne fait pas en permanence l'article de sa féminité et dont on pourrait dire, entre autres choses, mais c'est plus compliqué que ça, qu'elle refoule un peu sa féminité.
Mais parce qu'elle est lesbienne aussi, il faut le dire.
Il se trouve qu'elle est lesbienne, ce qui n'est pas forcément, évidemment, une contre-indication à la féminité. Mais, bien sûr que... Elle se sort elle-même d'une sorte de schéma féminin hétérosexuel. Bon, donc on a déjà Cate Blanchett qui rentre dans les habits de Lydiatar, mais c'est évidemment Lydiatar elle-même qui entre dans les habits d'une chef d'orchestre. Bon, ça c'est la première chose. Alors après, ce que va creuser le film, c'est comment il peut y avoir un continuum, pour reprendre un terme qui fait florès dans le paradigme féministe contemporain, un continuum entre une position et des abus. Une position de pouvoir et des abus de pouvoir. C'est ce tribut-là qu'apporte le film à la réflexion politique contemporaine. Alors, il faut bien voir que cette femme, elle est en position de maître. On l'appelle maestro. C'est un maître. Mais il faut diviser au moins, je dirais, en trois, cette notion de maître. D'abord, elle est chef d'orchestre. Une chef d'orchestre, c'est quoi, d'ailleurs?
Ça rejoint tout ce qui a été étudié au moment du 19e siècle sur la division du travail.
Oui.
C'est pas étonnant qu'en fait ce rôle-là prend de plus en plus d'ampleur au moment où en fait t'as de plus en plus de strates au niveau d'un orchestre.
Ouais, tout à fait. Elle l'explique dans la masterclass d'ailleurs, hein, que pendant longtemps il n'y a pas eu de chef d'orchestre et que la figure de chef d'orchestre, la fonction même, est apparue assez tardivement finalement dans l'histoire. Mais alors, qu'est-ce que ça induit d'être un chef d'orchestre? C'est quoi le chef d'orchestre? C'est un director. D'ailleurs, c'est dit director. Bon, c'est la traduction anglaise et à la fois
allemande
plus qu'anglaise. C'est quelqu'un qui dirige. Bon, elle le dit dans la masterclass, c'est pour ça que c'est très intéressant que ça commence comme ça, par cette longue scène qui vraiment n'a pas peur d'en parler pendant 10 minutes. Et elle dit d'ailleurs, elle est maîtresse du temps. Elle ne le dit pas exactement comme ça, mais elle dit vraiment, voilà, moi je suis une pendule.
On l'écoutera, ouais.
C'est moi qui dirige le temps. Et j'amène exactement les musiciens là où je veux qu'ils aillent. Bon, ça c'est la maîtrise absolue. Donc on est dans un schéma d'hyper-maîtrise. L'hypermaîtrise va s'incarner aussi dans le fait qu'elle n'improvise pas. Elle le dit d'ailleurs, les jours du concert, on n'improvise plus. En répétition, éventuellement. Mais le jour du concert, ça sera comme ça et pas autrement. Et il y a une trouvaille. Alors attention, trouvaille numéro 1, parce que le film en a plein. Hein. Mais au moment où elle est en train de raconter tout ça, il y a un contre-champ ou un cut ou un insert sur Francesca, qui est son assistante.
Ouais, qui est jouée par Noémie Merlant.
Noémie Merlant. Et qui... récite sur ses lèvres.
Qui récite en fait le texte du journaliste.
Non, le texte de Lydia.
De Lydia, d'accord.
Et donc, ce qui pourrait nous paraître un peu improvisé, à savoir c'est un entretien ça se prépare pas, l'intervieweur prépare, mais celui qui fait des réponses, il se laisse porter, tu vois, bon, il peut réciter des trucs quoi. Là, elle récite absolument au mot près. Elle a préparé cet entretien comme elle prépare une musique, donc en fait c'est la maîtrise. Il n'y a rien qui dépasse, tout ça c'est contrôlé. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on peut quand même supposer que de faire ça de sa vie, et que ce soit ça son cœur de métier, ça finit par déteindre sur votre psychologie quand même. C'est clair que vous allez devenir ce qu'on appelle un contrôle fric, un malade du contrôle, et dans votre vie même, et vous êtes habitué à ce que vraiment le réel se plie à vous, absolument comme vous avez voulu que. Ben, comment veux-tu que ça n'infléchisse pas aussi, par exemple, ta vie sexuelle? Ta vie avec les gens en général, mais ta vie sexuelle aussi. Et on s'apercevra, de façon très subtile dans le film, qu'elle est une prédatrice, appelons-la comme ça, vraiment. Elle consomme des jeunes femmes, on va dire. Et elle les mène à la baguette aussi.
Bah, y compris son assistante, puisque j'en reparlerai, mais la première scène sous-entend qu'il y a une liaison entre Tar et Noémie Merlan. Là,
le film est suffisamment habile pour ne jamais dire les choses véritablement, jamais les avérer scénaristiquement, mais laisser croire potentiellement qu'en fait, à chaque fois qu'elle a une jeune femme autour d'elle, elle l'a consommée ou elle va la consommer. Mais cette monstruosité-là est très subtilement amenée, quoi. Mais donc là, tu vois, on a un continuum entre l'exercice même de la direction d'orchestre et certaines déviances sexuelles. Et un film qui montre ça et qui le dispose de cette façon-là participe de la réflexion contemporaine sur la domination. Après, il y a une deuxième façon d'être un maestro, c'est qu'elle est aussi, comme tous les maestros, elle est aussi c'est quelqu'un qui fait des leçons. Ça commence d'abord par une masterclass, c'est ça en fait, c'est une leçon de musique. Et on la verra d'ailleurs Donner des cours
à la Juilliard School.
Voilà, la fameuse Juilliard School, célèbre école de musique de New York. Et donc, on la voit faire cours, parce que comme on la prend pour un maître, et qu'on l'appelle maître, et que c'est ça les mœurs dans ce milieu, et ben donc, elle est celle qui sait. Et celle qui sait, elle va donner des leçons à ceux qui vont écouter, et qui n'auront rien à dire. Et on a une scène qui est une des plus grandes du film, qui est la scène de cours, justement.
En plan séquence, j'y reparlerai.
En plan séquence, les élèves l'écoutent religieusement, et c'est une scène de sadisme. Comme s'il y avait une continuité entre la posture même de maître et le fait que ça produise mécaniquement du sadisme. Parce que c'est du sadisme. Au bout du compte, elle s'en prend un pauvre élève qui s'appelle Max et qui va finir par sortir du cours en la traitant de fucking bitch. Mais oui, elle se comporte comme une fucking bitch parce qu'elle l'humilie. Parce que déjà, elle se moque un peu de son choix parce que lui a choisi une musique atonale. Elle commence par faire des sarcasmes du genre « oui, bah, enfin, c'est comme si les violons ça continuaient à s'accorder pendant tout le morceau. » Enfin, c'est typiquement le genre de... Parce qu'elle, elle est plutôt dans la grande musique classique et non pas dans la musique, disons, plus contemporaine. Donc déjà, elle disqualifie son choix alors que lui, bon, ben voilà, il fait ça, quoi. Et puis elle va disqualifier tout ce qu'il dit. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, se met en place... Alors tu vas parler du plan séquence, mais ce que j'en dirais déjà, pourquoi cette scène est en plan séquence? Elle aurait pu ne pas l'être. Moi, j'y vois, une des raisons serait que c'est pour précisément introduire cette continuité. Elle commence par faire un cours, et dans la geste même d'un cours, elle devient sadique. Ça, je veux dire, le film est peut-être pas féministe, mais il est anarchiste, de ce point de vue-là. Parce que c'est de dire que toute posture de maîtrise entraîne mécaniquement et en continuité de la violence. Et c'est ça qu'on voit dans l'énergie même de cette immense scène. Voilà.
Qui fait des allers-retours entre la scène, l'auditorium, enfin les bancs de l'auditorium.
Ouais, le plan séquence est assez virtuose, mais il n'est pas virtuose comme tous les virtuoses du plan séquence nous emmerdent et nous cassent les couilles. La virtuosité, là, elle est vraiment très, comment dire, j'allais presque dire justifiée. Notamment par un truc, justement, effectivement, c'est un plan séquence à géométrie variable. Il varie en fait les cadres au sein même de son cadre unique. Il y a des valeurs qui n'arrêtent pas de fluctuer. On est un peu serré, puis parfois on s'éloigne un peu. Il y a du travelling, il y a des courbes, il y a des choses comme ça.
Il y a du 360 aussi.
Oui, il y a du 360, absolument. C'est à l'image ou à l'unisson de ce que joue la scène comme rapport de force. Parce qu'en fait, le débat qui est posé dans cette scène est passionnant. C'est un débat du moment.
Autour de Bach, d'ailleurs.
Alors, autour de Bach, mais c'est un débat qu'on entend tous les jours maintenant et qui, moi, me passionne. Et qui me passionne parce qu'il est insoluble et parce que tout le monde a raison. Parce qu'en fait, Max, il dit quoi? Il dit « Moi, je ne peux pas m'intéresser à des compositeurs cisgenres. » Il le dit comme ça. Bon, alors, la phrase est un peu... Bon, comment dire, on a envie de dire à Max, c'est un peu dommage quand même, parce que du coup, tu vas te passer de plein de gens, quoi. Tu vas te passer de Bach, tu vas te passer de... Bon, parce qu'ils étaient tous six genres, en tout cas, officiellement. Et donc, évidemment, Lydia est consternée parce qu'elle entend, elle est navrée. C'est pour ça qu'elle le casse aussi. Elle dit que c'est pratiquement une attitude de crétin. Elle dit, toi, tu veux faire de la musique classique, tu veux être chef d'orchestre et tu commences par te passer de Bach et tu vas t'occuper que de compositeurs qui ne sont pas six genres. Bah, putain, ça va mettre pas mal de gens sur la touche. Donc, il y a de quoi être énervé et ça lui donne absolument raison. Et en même temps, la question se pose un peu. C'est intéressant, les gender studies. Tu vois, qui revisite l'art en disant « Mais est-ce que tout l'art n'a pas été sous contrôle d'hétéros, blancs, occidentaux, etc. ?» Ce que d'ailleurs dit Lydia. Lydia, elle dit « Oui, c'est vrai que s'intéresser à la musique classique, globalement, c'est écouter, elle dit, des bigots austro-allemands. Ouais, » J'adore cette expression. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Donc c'est vrai, si t'es un petit peu remonté contre le christianocentrisme de l'Occident, Bach, ça peut être un peu crispant. Donc la question se pose. Il se trouve que Max y répond un peu bêtement. Mais la question se pose. Et je pense que les fluctuations de la caméra, tu vois, sont assez à l'unisson de la fluctuation de nos sentiments devant cette scène. Moi, je suis un peu Lydia, puis je suis un peu Max, moi. Les deux m'intéressent, en fait.
Ouais, et puis, sur 360, ces allers-retours, ça donne un peu le tournis aussi, tu vois, du point de vue de la pensée, du point de vue de ce qu'on en pense.
Mais tout à fait, voilà, on a le tournis. On a le tournis, mais comme nous donne le tournis toutes ces questions-là, hein, je veux dire, qui sont maintenant quotidiennes et qui alimentent la chronique, bon, d'ailleurs, pour le meilleur. Bah, en tout cas, à la fin, autant il y a une espèce d'équilibre un peu des positions, autant à la fin, c'est quand même elle qui gagne, quoi. Parce qu'elle se comporte vraiment comme un tyran. Et je pèse mon masculin à ce moment-là. Et donc, il faut bien voir d'ailleurs que ce plan séquence, si on le regarde dans le détail, c'est Lydia qui l'ordonne. Il est indexé à Lydia.
Au mouvement de, au déplacement d'elle dans la scène.
C'est elle qu'on suit. Et c'est elle qui orchestre la scène. Quand elle veut à un moment constituer une micro-scène où elle se mettra à côté de Max, là, on a un plan serré à côté de Max, quand ils sont assis sur une espèce des gradins. Après, elle décide que ça va jouer au piano. Elle l'assoit au piano, elle le rejoint à côté au piano, et donc on a un cadre serré sur le piano. Quand elle marche latéralement, on a un travelling latéral. C'est elle qui est la maîtresse du jeu, et c'est elle qui est la maîtresse de la mise en scène, en l'occurrence, quoi. Donc ce plan séquence a plus d'un titre et légitime. Après, je finis, mais il y a une troisième aspect qui est quand même important du statut de maître de Lydia. Elle l'est aussi en tant que chef d'une institution. Elle n'en est pas la chef officielle.
De la philharmonie, tu veux dire ?
Bah oui, mais elle en est la chef officieuse. Personne n'ose aller contre ses décisions, alors qu'on voit bien que la philharmonie s'est donné des protocoles de décision démocratique. Il y a une collégialité, les musiciens ont voix au chapitre, etc.
Quand on veut faire des promotions, quand on veut virer des gens, notamment.
Voilà, mais quand Lydia est dans la place, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que Lydia, c'est la maestro, et donc on a besoin d'elle. Le rapport de force est en faveur, donc elle peut tout imposer. Alors il y a un truc, il y a une très belle trouvaille de Todd Field qui incarne très bien ça, c'est qu'à un moment, elle est sur son estrade de chef d'orchestre, elle est en train de faire répéter Mahler. Et puis c'est depuis cette place-là qu'elle annonce une décision qu'elle a prise. Qui est arbitraire. Alors, donc tu vois, à ce moment-là, elle est à la fois en position de chef d'orchestre et en position d'administratrice. C'est la chef, tout simplement, de l'institution. Il se trouve que la décision qu'elle prend, d'ailleurs, c'est une décision érotique. Si elle veut une violoncelliste, c'est qu'elle a repéré Olga, parce qu'elle veut consommer Olga, et donc c'est elle qui mène un peu tout.
C'est un peu machiavélique. Hein.
C'est très machiavélique, mais oui, parce que son désir est absolument souverain. Et c'est ça, en fait, la position de pouvoir, c'est quoi ? C'est les gens qui se déshabituent à ce qu'il puisse y avoir un écart entre le désir et les ordres. Un désir est toujours un ordre. Alors ça, c'est pareil, comment veux-tu que ça n'induise pas des comportements de tyran ? Je veux dire, quand tout le monde réagit au quart de tour à la moindre de tes paroles qui valent décision.
Mais t'es habitué après.
Absolument. Personne ne naît tyran. Il y a une fabrication sociale du tyran. Et c'est ça que raconte. Bon, c'est un débat qui a eu une certaine vigueur récemment à propos de l'affaire Godrèche. En tout cas,
Judith Godrèche, l'actrice.
Des confidences ou des récits que Godrèche a eu le courage, il faut le dire, de mettre sur la place publique depuis quelques semaines. Et elle met en cause notamment Benoît Jacquot.
Doyon aussi, Jacques Doyon.
Et Jacques Doyon. Et alors, à ce moment-là, par extrapolation, ça s'est mis à débattre pas mal, et notamment, on a mis en cause la politique des auteurs. Bon, j'y reviens pas, ça serait compliqué, moi je pense qu'on s'est
trompé. Et les cahiers, d'ailleurs, les cahiers du cinéma.
Et donc les cahiers du cinéma qui seraient les inventeurs de la politique des auteurs. Là-dessus, on a entendu un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens savent pas ce que c'est que la politique des auteurs, disent n'importe quoi, et donc maintenant, ça serait les cahiers du cinéma eux-mêmes qui auraient presque créé les conditions théoriques de la prédation des cinéastes.
Donc tu faisais partie d'ailleurs à cette époque.
J'ai beaucoup écrit au cahier à une époque, et je me sens très redevable à la grande tradition théorique des cahiers. Et c'est pour ça que je grogne un peu quand on met en cause les cahiers de cette façon-là. Pas du tout par esprit corporatiste, genre ne touchez pas au sacro-saint cahier, mais tout simplement, on leur fait dire des choses qu'ils n'ont pas dit. Moi, je pense qu'on gagnerait plutôt à essayer de s'interroger comment des positions d'artistes créent des conditions de prédation et des conditions de tyrannie. Mais ça, c'est pas la politique des auteurs qui l'a inventée. C'est la grande figure de l'artiste telle qu'elle s'est constituée au 19e, notamment à travers les romantiques. C'est là aussi qu'apparaissent des chefs d'orchestre, justement, comme par hasard. C'est aussi quand émerge la grande figure de l'artiste qui aurait tous les droits, au nom du fait que lui-même est une espèce d'envoyé sur terre de Dieu, par son génie, par son talent. Mais surtout, concrètement, l'exercice même de certains arts crée des conditions objectives de tyrannie. Et c'est notamment vrai d'une chef d'orchestre ou d'un chef d'orchestre, ça c'est ce que montre absolument Tard. C'est vrai de metteur en scène de théâtre, c'est vrai de metteur en scène de cinéma. Ça, c'est vrai que ça crée des situations où le metteur en scène a un tel pouvoir. Et il y a de la part de son petit personnel une telle docilité qui vient d'une espèce de crainte sociale, le rapport de force est en sa faveur, que tout ça peut assez mécaniquement et en continuité produire de la prélation. Et donc on voit bien comment effectivement la figure du cinéaste que Jacquot surinvesti a pu mener à des choses, ce qu'a été son comportement avec la jeune Judith Godrèche à l'époque de 14 ans. Et je trouve que de ce point de vue-là, Tare est une contribution absolument majeure à ce débat-là. Donc pour résumer, Tare, qui parfois est boycotté ou alors méprisé ou réprouvé ou incendié au nom du féminisme, me paraît être un des films qui, ces dernières années, apporte sans doute le tribut le plus intéressant, riche, complexe, sophistiqué, subtil aux questions qui sont posées par le féminisme.
Mais t'es en mode maestro, là.
Je suis en mode maestro. Mais non, parce que moi, tu vois, je te laisse parler, tu vois, j'accepte l'interlocution.
Oui, alors... Moi, ce que je voulais te dire déjà, c'était de te dire merci, hein, parce que c'était une riche idée de revenir sur ce film.
Ouais. Bah oui, mais on s'en voulait un petit peu, quoi, de ne pas l'avoir traité. Faut toujours s'en vouloir d'avoir raté un chef-d'œuvre.
Ouais, parce que vraiment, le film, il décline, je trouve, des modalités de tension assez variées et souvent de façon très subtile. Alors, je vais commencer par le début et notamment par le prologue. Et on a quand même une dissémination d'interrogations. Par exemple, dans le premier plan, on est dans le jet privé. Tare est filmé pendant son sommeil donc via un smartphone. C'est un appel vidéo, sorte de FaceTime, dans lequel une conversation SMS est incrustée. Échange de textos un peu gossip sur l'héroïne, dont la chute révèle un amour donc secret entre celle qui filme et celle qui est filmée. Mais à ce moment-là du film, on ne sait pas qui filme. On ne sait pas, sait pas que c'est l'assistante. Et surtout, le bénéfice d'installer l'idée d'une liaison entre Tare et celle qui s'avéra donc son assistante Francesca, ça place une charge narrative prête à exploser dans les scènes suivantes. Deuxième plan du film, Tare, elle est dans le couloir, comme tu le disais, prête à entrer sur scène, mais pareil, on s'interroge. On ne sait pas où on est, déjà, puisqu'entre l'avion et le couloir, on a eu une ellipse. Et deux, on ne sait pas ce que s'apprête à faire le personnage, hein, diriger un orchestre ou faire, comme on le disait, une masterclass, une rencontre publique. Et puis dans l'audience, juste après, on a filmé de dos une femme rousse. C'est-à-dire que donc dès le début, le film dispose des lignes narratives en suspens. Alors, je me permets de m'arrêter sur ce début parce qu'on a dans ce premier tiers un tour de force formel du film. Hein. Le premier tiers, il dure quoi ? Une grosse demi-heure ? Quasiment 45 minutes ?
Ouais.
Avant qu'on arrive à Berlin ?
Moi, je dirais une demi-heure.
Ouais.
Ouais. Mais en tout cas, c'est un sacré morceau.
Et c'est un morceau de dingue parce que...
Ouais. Moi, je trouve que c'est un bon concept critique, ça, c'est de dingue.
Parce qu'on n'a pas 10 discussions en 3 quarts d'heure comme ce que font la plupart des films, mais on a juste 3 conversations d'environ 10 minutes chacune.
Ouais.
10 minutes notamment sur des enjeux esthétiques qu'on a un peu effleurés autour de la musique classique, ce qui fait que le classique, la musique classique est vraiment prise au sérieux et c'est passionnant. Je propose d'écouter un extrait à ce sujet, c'est justement l'échange du début Tare avec le journaliste à propos de son métier de chef d'orchestre. Le temps est primordial. Le temps, c'est la clé de voûte de l'interprétation. On ne peut pas commencer sans moi. Je lance la pendule, ma main gauche sculpte, et ma main droite, la seconde, marque le temps et le fait avancer. Contrairement à une pendule, ma main droite s'interrompt parfois, ce qui signifie que le temps s'arrête. On a l'illusion que, comme vous, je réagis à l'orchestre en temps réel, décidant quand commencer ou quand reprendre, ou de ne plus me soucier du temps. En réalité, dès la première seconde, je sais exactement où on en est et le moment exact où vous et moi arriverons à destination ensemble. Alors, quand je disais que le film prend au sérieux la musique, on notera au passage aussi la longueur du plan sur Tare sans contre-champ pendant sa prise de parole. Et qui dure presque 3 minutes.
Mmh. Bah oui, ça, faut oser. Hein.
Ouais.
Et de la même façon, d'ailleurs, tu sais, le générique de début est tout à fait fou. Hein.
Oui, ah ouais.
C'est un générique de fin.
C'est un générique de fin, ouais.
Il faut quand même avoir une sacrée audace pour faire rentrer dans un film par ce qui, en général, est fait pour nous en faire sortir. C'est-à-dire un truc très long, où défilent les noms, en plus sur un écran noir, pas très sexy.
Ouais.
Il nous fait entrer là-dedans, sans doute pour nous mettre, je pense, dans une certaine disposition, je crois. Mais juste précisément une disposition d'écoute et de lenteur qui sans doute nous rend possiblement attentifs aux espèces de tunnels que tu es en train de décrire, qui du coup ne sont pas des tunnels.
Et donc, parenthèse refermée, dans le genre plan long, il y a aussi donc, ce plan séquence dont on a parlé pendant la masterclass de Tare à la Juilliard School, où comme on l'avait vu chez Haneke, le plan séquence permet d'installer le malaise plus profondément, en l'occurrence donc divergence de point de vue sur l'art et la morale entre un professeur et son élève. Et puis donc, un mot sur la finesse dans l'écriture des scènes. Par exemple, lorsque Sharon, la compagne de Tar, qui évoque donc le sujet Olga pour la première fois chez elle, donc Olga, violoncelliste dont Tar tombe amoureuse, cette scène, elle est tiraillée entre la crainte chez Tar de révéler son désir en anglant la discussion sur le talent musical d'Olga, puis en rappelant à sa copine de prendre ses médicaments. Hein, ça détourne l'attention du vrai enjeu. Et en même temps, on sent qu'il y a du plaisir à parler d'Olga. Hein, ça pallie l'absence de son fantasme. Mais inversement, le film est aussi très efficace sans parole pour faire monter le suspense. Par exemple, à l'audition masquée par des paravents, eh bien ce sont les bottines d'Olga qui ordonnent le climax de la scène. Lesquelles bottines ont été repérées quelques secondes avant aux toilettes lorsque Tar rencontre Olga pour la première fois et tombe sous son charme. Alors tu vas compléter, mais quand on met bout à bout l'incroyable tressage de nœuds narratifs, parce qu'il y en a plein, hein, les variations d'intensité par le montage, le cadrage ou la durée des plans, bah ça donne tout simplement une symphonie de cinéma.
Mmh. J'ai cru que tu allais dire un masterpiece, tu vois, un truc comme ça. C'est vrai. Est-ce que le mot chef-d'œuvre a vraiment beaucoup d'intérêt? Je sais pas. Je sais pas si on doit dire que c'est un chef-d'œuvre.
Mais symphonie au sens littéral. Hein.
Mais j'entends bien. J'ai bien compris ton raisonnement. Et c'est sans doute beaucoup plus intéressant qu'effectivement de dire chef-d'œuvre. Au moins, c'est beaucoup plus précis. Le film fait quand même des choses. Enfin, oui, t'as tout dit. Tu parlais de tension. Je crois qu'on avait parlé beaucoup de tension à propos de Haneke, il me semble, ici, dans la longue histoire des gènes occasionnés. Bon, le film est quand même très Hanekeien dans sa facture. Hein. Je veux dire, c'est très frappant. Mais on y reviendra peut-être. Bon, il fait des choses narrativement qui sont très bizarres, ce film, pour compléter un peu ce que tu dis. Bon, si on voulait résumer le pitch du film, c'est-à-dire ce qu'il raconte. Il raconte quoi? Il raconte une femme qui est en position de pouvoir, dont on comprend qu'elle consomme un peu des jeunes femmes, et qui va peu à peu être un peu destituée. Mmh. Elle va être destituée de son pouvoir parce qu'une affaire va lui tomber dessus. Une de ses victimes...
Voire deux, même. Deux, avec la scène à la Juilliard School. Qui va être relayé sur
oui,
les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Mais ça part avec Krista Taylor, ouais. Donc qui était...
Une élève.
Une élève, qu'elle aurait dû promouvoir et que visiblement, elle a éconduit, à laquelle elle a donné congé une fois qu'elle l'a eu consommé, en quelque sorte. Et non content d'avoir fait ça, on comprend qu'elle lui a même fermé d'autres portes. Donc elle s'est vraiment mal comportée avec cette Krista, laquelle s'en est trouvée totalement ravagée jusqu'au suicide. Et ce suicide entraîne ça devient une affaire médiatique comme on en connaît pas mal. Et de fil en aiguille, eh bien, on va découvrir d'autres formes de prédation et donc effectivement, ça en arrivera à ce que tu disais. Et elle se retrouve à la fin déclassée. Alors ce qui est très frappant, quand tu regardes comment le film est fait, c'est qu'il ne fait pratiquement aucune des scènes que ce récit semble appeler. D'abord, on ne voit jamais Krista.
Ouais. Que, sauf de dos, comme je te disais.
Sauf de dos. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Ouais. Elle n'a pas de visage. Il y a des fois, elle va apparaître un peu comme un rêve, comme une hantise. Ouais. Il y a des petites bribes comme ça. Ouais. Mais en fait, on ne la voit pas. Donc en fait, elle n'existe pas comme personnage, qui est un petit peu la moindre des choses. Quand tu es en train de raconter un truc, il faut que ce soit incarné, il faut qu'il y ait des personnages. Là, le personnage n'existe pas comme personnage. Il n'a pas de visage. Mais plus généralement, par exemple, on n'aura même pas de... Par exemple, l'histoire qui s'est jouée entre Krista et Lydia ne nous sera racontée que rétroactivement par les petites bribes qu'on en aura. Mais elle ne nous est pas racontée. Elle aurait pu être racontée par flashback. Ça se fait, hein, même dans les grands films. Il n'y a pas de flashback.
C'est des échanges de mails, globalement.
Ouais, il y a des petits mails comme ça, des petites bribes de machin. C'est des bribes d'histoire, c'est des bribes de scènes qui ne sont pas faites. On n'aura pas non plus, par exemple, le moment même de la destitution. Le moment où vraiment ça commence à chauffer pour Lydia et qu'elle est lâchée. Comme il arrive à certains dominants... assaillis par une rumeur et par des révélations de leurs exactions, bah, se retrouvent un peu lâchés par ceux qui les soutenaient et ceux qui les glorifiaient. C'est des choses qui arrivent. Ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive. La destitution, comment on nous la raconte? On ne nous la raconte pas. On nous la raconte dans des bribes de plans, dans des esquisses de scènes que d'autres auraient fait. D'autres narrateurs plus standards auraient fait. Par exemple, il y a un moment où elle va donc à New York parce qu'elle doit faire une déposition par rapport aux accusations qu'on lui fait.
Et faire la promotion de son livre.
Elle en profitera pour faire la promotion de son livre. Et on la voit, il y a une scène dans un parking souterrain. Une bagnole avance et nous, on est du côté de la bagnole. On suppose que c'est la bagnole de Lydia qui arrive dans ce parking, qui est le parking où il va y avoir le conseil d'administration en fait, de la Juilliard School. Et elle arrive et nous, on ne la voit pas, elle. Et on voit des gens qui eux-mêmes ont été déposés, je pense, par leur chauffeur à ce moment-là. On reconnaît son mentor, en tout cas un chef d'orchestre qui est compté pour elle, qui s'appelle Andris. Et là, mais en deux secondes...
Ils font demi-tour.
Le simple demi-tour, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas Lydia, alors que encore trois semaines plus tôt, il l'aurait accueilli, comment vas-tu Lydia, après toi, tout ça. Juste un plan qui fait deux secondes, on a tout compris à la destitution. Après, elle arrive dans la salle du conseil d'administration où ça va chauffer pour elle. Ah, on se dit, putain, on va la voir cette scène. Et puis on veut la voir, quoi, parce que quand même, c'est toujours bien, ces confrontations, comment elle va se défendre. C'est un paf, cut, La scène n'aura pas lieu. Cut, et on se retrouve quoi ? Lydia, seule, dans la salle de concert, dans les gradins, isolée. On a tout compris. On a tout compris. Là où certains auraient fait les scènes, lui, par tout petit bout, comme ça, il te raconte tout. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas les scènes qui sont attendues. Moi, ça me rappelle ce qu'on dit parfois de Paul Thomas Anderson, et comme quoi tous les grands se rencontrent. Savoir que Paul Thomas Anderson ne fait jamais les scènes obligées d'un récit donné. Il fait toujours autre chose que la scène qu'on attend. En tout cas, il la fait différemment, et voire même, il ne la fait pas du tout. Bah là, c'est exactement le cas de Todd Field.
Et inversement, d'ailleurs, les scènes qui ne sont pas attendues, bah, il les fait.
Oui, tout à fait. Il comme, prolonge.
Comme le début, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Il prolonge des scènes dites inutiles narrativement, mais qui, en fait, racontent à leur manière et de façon... légèrement décalé les choses. Alors après, une des raisons pour lesquelles Todd Field faisait ça, c'était aussi parce que précisément ces récits jalonnent nos vies depuis 5, 6, 7 ans, depuis ce qu'on appelle la séquence Me Too. Un artiste très respecté, ou alors un présentateur télé, ou alors machin, ou truc, ou bidule, alors des gens qui avaient du pouvoir, et qui étaient plutôt estimés, qui avaient un grand capital symbolique, eh bien se trouvent accusés de tout un tas de choses, et ça entraîne plus ou moins, ça dépend du fait qu'ils soient protégés ou pas, mais leur destitution. On connaît un peu tout ça, parce qu'en fait, il suffit d'allumer sa télé tous les jours, et à chaque fois, il y a une nouvelle histoire. Et moi, je me dis qu'il y a une grande intelligence de Todd Field de ne pas avoir fait des scènes qu'on connaît, en fait. Donc c'est une grande intelligence narrative que d'avoir... compter sur ce qu'était le savoir du spectateur. C'est-à-dire que je ne vais pas moi-même à mon tour faire les choses, parce que vous savez très très bien de quoi il retourne. Mais je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle il ne fait pas ça. Et je crois que là-dessus, il faudrait revenir. Moi, je reviendrai sur le premier plan. Le portable, dont tu as déjà parlé. Bon, ça, pour moi, c'est du Haneke pur jus. Parce qu'il y a beaucoup de plans d'Haneke comme ça, notamment dans Happy End, qui, je crois, sont meilleurs pour moi. Le dernier en date.
Avec Jean-Luc Trintignant et Marc Cassovite.
Il y avait beaucoup de plans dans APN que j'appellerais des plans objectifs. C'est-à-dire que tu voyais un écran, par exemple, d'ordinateur,
oui.
Quelqu'un qui envoyait un message, mais tu ne savais jamais qui envoyait un message à qui. Donc tu avais une espèce de message objectif. Message de personne à personne. Et ce qui compte, c'est le message lui-même. Bon, dans ce premier plan, toi, tu dis que c'est Francesca.
Je le suppose.
Bah, tu le supposes, mais moi, je ne suppose pas ça, moi. Tant qu'à supposer qui c'est, moi, je pense que c'est Olga. Et je pense que c'est un plan flash forward.
Ah ouais.
Je pense. Mais tu vois, ça prouve bien que... Non, je peux le prouver par deux choses. Premièrement, je pense que... Tu vois, il y a un noir après. Donc, on pourrait dire que c'est un truc à part qui pourrait anticiper.
Ouais, c'est clair. Il y a une générique.
Comme il arrive,
en fait, il y a
une générique. Ouais. Et par ailleurs, on verra à la fin du film, dans la dernière séquence, un peu, enfin, disons, dans le moment Olga du film, c'est-à-dire le dernier tiers à peu près.
Où Olga vient à New York avec elle.
Qu'elle est très coutumière de portable. Elle a tout le temps le portable. Elle
n'arrête
pas d'envoyer des messages. Et notamment, elle en envoie un exactement du même acabit à un moment où Lydia est en train de faire sa conférence sur son livre à New York dans la dernière partie du film. Il y a Olga qui est au fond de la salle, qui s'en branle total de ce que raconte Lydia.
Ouais, avec un mec, elle discute avec
elle. Est en train d'envoyer un texto à peu près du même genre, et on a un plan sur son écran. En résumé, moi je pensais Olga, tu penses que c'est Francesca, et en fait, si Todd Field avait voulu nous signifier que c'est l'une ou l'autre, tu penses bien qu'il l'aurait fait. Et il a voulu que ça reste ce que j'appelle objectif. Parce que ça reste anonyme. Pas anonyme au sens où ça serait personne, mais au sens où on ne sait pas qui l'envoie parce qu'on s'en fout. Parce que ça crée à ce moment-là un truc, mais vraiment, tu vois, en deux secondes, c'est quand même une idée de génie. J'ai parlé tout à l'heure du fait que ce qui intéressait, ce n'était pas les personnes, ce n'est pas la personne de Lydia Tarr qui est incriminée dans le film. C'est sa position de pouvoir. C'est une analyse structurelle des choses. Et bien là, c'est pareil pour les victimes, en fait. Peu importe de personnifier la victime, peu importe que Christa ait un visage, peu importe que ce soit Francesca ou Olga qui soit à ce moment-là plutôt d'ailleurs en mode contre-attaque, en mode revanche, l'important c'est que finalement les victimes aussi ce sont des victimes structurelles. C'est la structure qui produit de la victime de la même façon qu'elle produit des tyrans. Donc on n'a pas besoin, c'est ça que vraiment quand tu veux dépersonnaliser ou dépersonnifier et que tu veux décrire des processus et non pas des histoires de personnes, on a un cinéma qui est beaucoup trop personnifiant en général d'ailleurs. Là, on décrit un processus. Et donc, bah, tu fais ce genre de plan. Parce que tu mets en avant à ce moment-là le processus. Mais je pense qu'il y a une autre fonction à ce moment-là de ce protocole de filmer un portable qui viendrait d'une façon de narrer qui me paraît être le cœur du... Allez, disons le génie de Todd Field. C'est un peu compliqué de dire ça parce qu'on a, finalement, on demande à ce qu'il fasse encore ses preuves. Mais en tout cas, le génie de ce film, c'est la façon qu'il a de signifier des choses en les objectivant. Plutôt que de les faire exprimer, il va toujours en passer par une sorte de projection objective des choses. Alors, ce qui me paraît, moi, à la rigueur, je pense que l'art, c'est toujours ça. L'art, il n'est pas là pour exprimer des choses directement. Il en passe par des objets tiers qui s'appellent des œuvres. C'est-à-dire que quelqu'un aurait quelque chose à dire, en fait, il va l'objectiver dans une œuvre. Plutôt que de l'exprimer directement, ça c'est plutôt les essayistes, c'est plutôt les tribuniciens ou les gens qui s'expriment sur Twitter. Voilà. J'entendais un critique, par exemple, parler du Michael Mann, là, le dernier.
Ferrari.
Ouais, Ferrari. Et il défendait le film en disant que Michael Mann a encore des choses à nous dire. Il a des choses nouvelles à nous dire. Moi, je ne sais pas si Michael Mann a des choses nouvelles à nous dire et j'en ai rien à foutre. Mais j'ai noté le verbe « dire ». Ah, un artiste pour ce critique-là, que je ne nommerai pas.
Et non pas à faire.
Ça serait donc quelque chose, quelqu'un qui aurait des trucs à dire. Ben, s'il a des trucs à dire, qu'il les dise. Mais ce n'est pas ça, l'art. L'art, c'est objectiver les choses. C'est rentrer dans la matérialité d'une œuvre et c'est l'œuvre elle-même par sa matière qui va produire quelque chose, produire du sens, produire plein de sensations, des choses comme ça. Et Phil le fait, par exemple, dans ce premier plan, où, si tu veux, qu'est-ce qui se passe ? Parce que le contenu même du texto, c'est quoi ? C'est, tu crois qu'elle a encore une conscience dans cet échange entre deux femmes ?
Ça, c'est le début.
Ça, c'est le début. Ben, en fait, la question qui est posée à ce moment-là, qui est posée d'un personnage à un autre, est en fait la question du film. Parce que c'est une question morale, en fait. C'est la vieille question morale, et qui est une question tout à fait noble, à savoir, est-elle bonne, est-elle méchante ? Et d'ailleurs, à l'autre bout du film, dernière séquence du film.
Dans un pays asiatique.
Dans un pays asiatique non identifié. Elle dirige quelque chose.
Oui.
C'est une œuvre, donc il y a des paroles. Et les dernières paroles, c'est « Personne ne la jugera ». Donc c'est Todd Field, plutôt que d'exprimer directement le fait que oh, finalement ce personnage, il est un peu par-delà bien et mal, et que d'une certaine manière, on la sauve, malgré les horreurs qu'elle a commises, parce qu'elle a quand même commis des horreurs, puis elle est à l'origine de la mort d'une femme quand même. Eh bien, personne ne la jugera. Il y a une espèce comme ça de mansuétude finale, mais qui ne passe pas directement par la bouche d'un personnage, mais qui passe par une œuvre, et qui par ailleurs est une œuvre cheap, une œuvre bas de gamme, parce que c'est ça la grande trouvaille, encore une fois, de cette fin. Tu as à signifier que quelqu'un a été destitué. Tu peux le faire dire par un personnage. Tu peux l'incarner sur l'acteur. L'actrice va devenir complètement, voilà, elle est au sous-sol, elle est dépressive, elle est alcoolique, ouais. Elle sort plus de son lit, elle est en pyjama. Là, c'est plus subtil. Ça. Et puis, c'est amené très bien, parce que pendant longtemps, dans cette séquence asiatique, on pense que quand même, elle a de nouveau trouvé un contrat pas dégueulasse, quoi. Puis, qu'est-ce qu'elle fait à la fin ? Elle dirige une musique de jeu vidéo, je crois, d'après ce que je peux comprendre, ouais. Devant un public de...
Le cosplay, ouais.
Ouais, voilà, exactement, c'est comme ça qu'on dit. Bon, ben voilà, elle est tombée. Et ça, ça nous est signifié simplement par la chose même, quoi, tu vois. Et donc, à chaque fois, il a le génie d'aller trouver quelque chose qui va incarner. J'ai parlé déjà d'une scène, enfin, j'en ai pas parlé, mais j'ai légèrement effleuré le fait qu'il n'y avait pas de séparation entre ses désirs et ses ordres, entre les désirs et les faits. Je voudrais dire ici que ce n'est pas le scénario contre lequel je bataille en permanence. C'est l'ordre narratif. Je maintiens que le scénario est du grand art. Et c'est quoi le scénario ? Ce n'est pas simplement raconter quelque chose, un scénario. Le scénario, c'est l'écriture. On écrit des choses, mais on n'est pas obligé d'écrire des récits. Donc écrire des scènes, les concevoir. Que Todd Field ait eu le génie d'aller chercher la scène des masseuses. Ça, c'est d'écriture. Ça, c'est du scénario.
Qui fait qu'il y a un parallèle avec la prostitution.
Mais, bien sûr, mais pas seulement. Elle se retrouve en Asie. Elle a mal au dos. Elle veut une masseuse. En Asie, il y en a plein. Donc, on l'emmène dans un espèce de machin où 20 masseuses sont à disposition.
Avec des peignoirs numérotés.
Voilà. Et elle choisit. Elle n'a qu'à choisir le numéro, lui dit la maîtresse de maison.
Et elle choisit le numéro 5.
Elle choisit le numéro 5.
Comme la symphonie.
Comme la symphonie de malheur. Mais, après, elle vomit. Elle a un énorme malaise et elle va vomir. Pourquoi ? Ben parce qu'à ce moment-là, elle s'est rendue compte de ce qu'elle a toujours fait dans sa vie. Ce qu'elle a toujours fait dans sa vie, c'est de choisir, en pointant du doigt, n'importe qui dans un bétail féminin. C'est ce qu'elle a fait avec toutes ses assistantes. C'est ce qu'elle fait avec Olga. Tiens, toi, je t'ai repéré. La petite Olga, amenez-la-moi, là. Tiens, on va faire la violoncelliste principale. Oui, on va reconfigurer un peu le spectacle, rien que pour elle. Comme ça, ça me permettra de rentrer un petit peu en contact avec elle. Et puis, ça se passera super bien. Je la consommerai, puis après, je la jetterai. Elle se rend compte à ce moment-là de ce qu'elle a toujours fait. Et c'est pour ça qu'elle vomit. Elle vomit sa vie. C'est Todd Field qui a inventé cette scène. Plutôt que de nous faire directement dire par un personnage « Mais toi, en fait, les femmes, tu les as toujours consommées de façon interchangeable. Elles n'ont jamais été que des numéros pour toi. » Tu vois, ça aurait été un mauvais dialogue dans un film de Kubrick ou de Spielberg. On est chez Todd Field. Donc ça passe par cette trouvaille géniale du massage. Tu vois, c'est fou, en fait. C'est fort, bon voilà. Mais je prendrai un autre exemple d'objectivation de quelque chose parce qu'il n'arrête pas de le faire. En fait, une autre scène. Elle accompagne sa fille Petra.
Fille adoptée.
On suppose qu'elle a été adoptée. À l'école. Et Petra dit ouais, mais je suis emmerdée par une camarade de classe. Elle est harcelée en gros quoi. Et Lydia y va. Et elle repère la fille qui harcèle. Et elle va la voir. Et là, elle lui fait une scène de terreur. Je veux dire, c'est vraiment une adulte qui parle à un enfant et qui le terrorise. Elle lui dit. Premièrement, Dieu te regarde. Elle lui dit deux, trois trucs comme ça, mais horrible. Hein. Je veux dire vraiment, mais alors que la petite, elle a quand même 8 ans. C'est bon. Et elle lui dit un truc, elle lui dit, mais tu sais, si jamais tu veux te plaindre aux adultes de ce que je suis en train de faire, sache que c'est moi l'adulte, ils te croiront pas. C'est typiquement une parole de pédophile. À chaque fois que tu suis des histoires de pédophiles ou de témoignages de gens qui ont été victimes de pédophiles, ils te disent toujours que le père incesteux ou le pédophile, tu vois, il te dit toujours ça. Ne dis rien aux adultes parce que, de toute façon, ils ne te croiront pas parce que l'adulte, c'est moi.
Ça me rappelle Christine Angot.
Oui, et entre Neschino, par exemple, pour prendre celle qui a produit ce grand livre cette année. Donc, cette scène, plutôt que d'avoir fait une scène de sadisme caractérisée avec une jeune femme qui compte parmi ses victimes,
mais elle passe par
décale, Todd Field décale la scène et la fait jouer dans la cour de récré à un autre propos. C'est ça que j'appelle objectiver, c'est en passer par autre chose, qui donne d'ailleurs une mesure, je veux dire, encore plus effrayante à la chose. Ce qui lui permet effectivement de toujours continuer à maintenir hors champ le cœur même du vice de Lydia, parce que c'est ça ce qui est stupéfiant dans le film. On n'arrête pas d'entendre parler ou de deviner qu'elle consomme plein de jeunes femmes, et que ça n'arrête pas, parce qu'elle a deux attributs du pouvoir. Elle a choisir sa proie, comme avec les masseuses, et elle a le remplacement.
Oui, elle fait le DRH de l'infirmerie.
Elle est un peu, c'est tout à fait, elle est DRH de sa propre petite entreprise de prédation. Ça, c'est très important comme attribut du pouvoir, c'est l'interchangeabilité des victimes qui fait que finalement, elle ne fait pas la différence. L'altérité, ça n'existe pas. La singularité des autres, ça n'existe pas. Bon, en tout cas, voilà, je reviens sur cette histoire d'objectivation qui fait que le cœur du crime en série, en quelque sorte, que commet Lydia Tarr, est toujours relégué hors champ. Tu parlais de tension, mais moi je pense que la tension, elle vient de là, fondamentalement aussi. C'est-à-dire, tu as un film qui est quand même assez froid dans sa facture. Très sobre, hein. Ça fait pas de bruit. Tu as très très peu de scènes où ça monte un peu dans les tours. Très très peu. Et c'est toujours relégué. Et c'est pour ça, tu vois, on a à l'écran, c'est un petit peu ce qu'on disait un tout petit peu, je devrais pas faire cette comparaison, mais un peu la zone d'intérêt. D'une certaine manière, Auschwitz, c'est partout. Auschwitz, c'est hors champ. Mais Auschwitz, c'est dans tous les plans. Et c'est ça qui rend les plans fous. Parce qu'on a l'ordinaire et l'absolue horreur à peu près dans le même plan, mais qui contamine le plan souterrainement et qui lui donne cette espèce de magnétisme fou qu'il y a dans le film de Glaser, mais qu'il y a aussi dans Todd Field, parce qu'on sent...
Et qui fait travailler notre imaginaire. Quoi.
Mais complètement. Et puis, on dit parfois de certaines personnes, de façon très vulgaire, je réprouve, on dit « cette personne sort le cul ». Tu sais, ça se dit parfois. Oui. Moi, j'ai entendu mes copines dire ça de certains acteurs. Oui, je balance. Eh bien, le film sent le cul. Et il sent la drôle de frénésie sexuelle ou de pathologie sexuelle que pratique Lydia sans jamais le montrer. Et évidemment, ça n'en est que plus fort, tu vois, de reléguer les choses comme ça. Alors,
on a un pied qui caresse un autre pied au début.
Ouais, voilà, c'est très discret.
C'est très fin, quoi.
T'as un moment une scène de micro-drague, tu sais, dans le hall au début avec une sorte de fan.
Oui.
Et elles échangent un texto.
Qui a un sac Hermès d'ailleurs.
Sous le regard de Francesca. Et le regard de Francesca, il dit tout. Parce qu'on voit bien qu'en fait, elle est habituée. Elle est en train de se dire. Eh ben voilà, elle refait son cirque, Lydia. C'est tout le temps pareil. Après, voilà, je voulais juste dire un petit mot pour finir de la dialectique entre le chaud et le froid, qui me paraît toujours la bonne dialectique pour construire une œuvre d'art, quoi. Il faut toujours faire refroidir un peu le chaud. Alors, où est le chaud, où est le froid chez Lydia? On pourrait dire, en première analyse, que... qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle compartimente. Donc, il y a d'un côté le cul, et de l'autre côté... la maestro célébrée et qui fait son travail de chef d'orchestre et autres.
D'où la bonne trouvaille aussi d'avoir deux appartements.
Elle a évidemment deux appartements et ça incarne parfaitement ça. Quoi. Il y a un temps pour tout. Bon, après, il y a aussi là le côté appartement conjugal avec la régulière et puis appartement où on fait des choses un peu plus interlope.
La garçonnière.
La fameuse garçonnière, oui, tout à fait. Le mot est très pertinent en l'occurrence d'ailleurs. Puisque Lydia se comporte un peu en garçonne. Elle s'habille en garçonne, etc. Donc, elle compartimente, quoi. Et donc, il y aurait d'un côté le très chaud de la pulsion sexuelle et la froideur de l'art. Elle l'a bien dit, hein, c'est métronomique. D'ailleurs, à un moment, le mec qui l'interview dans la masterclass dit « Vous êtes la femme métronome. » Et donc, voilà, tout est carré et tout est, attention, on relègue tout hors champ. Le hors champ, c'est la pulsion sexuelle, le chaud, etc. Et le film s'est aligné là-dessus. Il s'aligne, en fait, sur Lydia. Toute sa vie n'est que froideur et qu'elle est obligée de se refroidir elle-même pour que ça tienne. Il faut voir les rapports qu'elle a avec Sharon, par exemple. La scène où on découvre Sharon, c'est Lydia qui rentre dans leur appartement.
Qui rentre de New York, ouais.
Elle rentre de New York et pour la première fois, on découvre qu'elle a une compagne, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, elles habitent ensemble depuis longtemps. Elles ont adopté une fille, tout ça. Donc, c'est sérieux. Et là, encore une fois, trouvaille. Je veux dire, comment tu fais ça? Eh bien, il se trouve que Sharon, à ce moment-là, a un petit malaise.
Petit malaise cardiaque, ouais.
Cardiaque. Elle a une tachycardie, on va dire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans le chaud. Elle, elle somatise. Elle, c'est une créature organique. Elle a des sensations. Et peut-être qu'elle somatise une certaine angoisse ou peut-être une certaine détresse amoureuse, parce que c'est pas facile d'être avec Lydia. Et Lydia, elle est quoi dans cette scène? Elle est dans le rôle de celle qui refroidit la tachycardie. C'est celle qui refroidit. Elle va lui donner un petit médoc pour faire retomber la tension. Tu vois, faut pas, on s'emballe pas. On est dans la maîtrise. Voilà. Et en même temps, je trouve que Lydia, dans ses prises de parole sur la musique, elle est un peu contradictoire. Enfin, en tout cas, elle est ambivalente. D'un côté, elle dit qu'il faut être un peu froid, métronome, pas d'improvisation, tout ça c'est réglé. Et de l'autre côté, elle n'arrête pas de mettre en avant quand même, notamment quand elle parle de malheur.
L'interprétation.
L'interprétation très personnelle des choses et très sensuelle des choses. Elle met en avant le fait que, ah tiens, malheur était amoureux quand il écrit la cinquième. Et qu'il faut penser à ça. Alors elle, il faut trouver la bonne mesure, parce qu'à un moment elle dit, attention, hein, on ne va pas non plus lâcher les lions en fait de la sentimentalité. Bref, on n'est pas chez Visconti, dit-elle. En quoi je suis bien content. Visconti, mort à Venise, qui se sert de la cinquième de Malheur aussi, mais qui effectivement, disons que le film lâche un peu les violons, quoi, hein, quand on regarde Mort à Venise, bon, qui est d'ailleurs une histoire aussi de passion sexuelle pour un jeune garçon. Donc les parallèles sont là, mais c'est comme si elle disait, non, nous on va la jouer beaucoup plus en dessous, on va la jouer plus souterraine, il faut pas que l'art soit trop sentimental, quoi. Ouais.
Bon. Et puis il y a l'idée que cette symphonie-là, elle est tiraillée entre l'amour et la tragédie, quoi, entre le chaud et le froid, justement.
Tout à fait, absolument. Donc, mais on voit bien qu'elle hésite d'ailleurs, elle-même est en recherche un peu, parce que je pense qu'elle a... En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est pas que elle a refroidi sa vie artistique pour pouvoir reléguer hors champ la chaleur sexuelle de sa pathologie. Je pense qu'il y a aussi du chaud dans son art. Et on voit bien d'ailleurs que la musique, elle y a investi toute sa sentimentalité, en fait. On le voit bien à la fin, c'est pour ça que la dernière scène chez elle, quand elle revient aux États-Unis, chez sa mère, dans sa maison familiale.
Ouais, et puis elle remet sa petite médaille autour du cou, là.
Ouais, on voit qu'en fait, c'est quelqu'un qui a vécu pour la musique et pour qui la musique a été la grande passion, en fait. Et quand elle revoit la vidéo de Bernstein, bah, on voit bien qu'elle s'est extasiée pour ça.
Ouais, elle pleure d'ailleurs à ce moment-là.
Elle pleure, bon. Donc toute sa sentimentalité, en fait, a été mise dans la musique. Mais c'est aussi ça qui en fait un monstre, en fait. Elle a mis toute sa capacité de sentiment dans la musique. Et donc, elle en a soustrait tout le reste de sa vie. Ses rapports avec Sharon, qui ne sont pas extrêmement tendres. Enfin, tu vois, on ne peut pas dire qu'elle soit très...
Il n'y a pas beaucoup de câlins, quoi.
Voilà, il y a peu de câlins, c'est assez distant. Et elle n'est pas très prodigue en expression de sa sentimentalité. Avec sa fille, un peu plus.
Un peu plus.
On sent qu'il y a vraiment de la tendresse maternelle, pour de vrai. Mais sinon, c'est pas... Et alors, j'en parle même pas dans le sexe. On voit bien que finalement, elle ne consomme pas ces jeunes femmes sur le mode amoureux. C'est plutôt sexuel. Et une fois que j'ai consommé, bah, je remplace par une autre. Donc, en fait, elle a surinvesti. Elle a mis toute l'humanité qu'elle avait en elle, toute sa capacité de sentiment dans la musique. Et ça, ça m'a rappelé un autre personnage qu'on a traité cette année, qui est le personnage de Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute.
J'ai pensé exactement
qui
à
est
ça.
Un personnage d'artiste. On avait beaucoup insisté, nous, là-dessus, sur le fait que c'était d'abord l'histoire d'une écrivaine.
Oui, et que c'était la littérature qui était monstrueuse.
Oui, voilà. Ben oui, on voyait bien que Sandra Hüller, Sandra, qui s'appelle Sandra dans le film, je crois,
oui, Sandra.
N'avait pu se construire comme écrivaine et accéder à un gros niveau d'écriture qu'à partir du moment où elle s'était soustrait un certain nombre de sentiments a priori affiliés aux femmes. Le sentiment maternel... y compris le sentiment conjugal, puisqu'elle finit par être très fâchée avec son mari, jusque peut-être jusqu'au crime. Bah, peut-être que c'est ça le truc le plus féministe de Tarr, en fait. C'est que pour devenir une femme artiste, il faut, plus qu'un artiste lui-même, s'armer d'une sorte de froideur dans sa propre vie pour pouvoir accéder à un certain niveau artistique qui nous est refusé comme femme. En fait, il faut peut-être déployer un certain nombre d'axiomes de cruauté pour arriver au niveau de chef d'orchestre auquel Tarr est arrivé et pour arriver au niveau d'écriture auquel Sandra est arrivée. C'est pas du tout anti-féministe de dire ça. C'est tout à fait au contraire. C'est-à-dire qu'on en demande plus aux femmes, dit-on toujours. Oui, c'est vrai qu'on en demande beaucoup plus aux femmes. Et par exemple, il faut concéder une certaine cruauté à nos proches pour pouvoir y arriver. Donc ça serait ça aussi le continuum possible entre la monstruosité de Tarr et son art. C'est que pour cultiver son art et pour pouvoir y donner tout ce qu'elle a en elle d'humanité, il faut qu'elle soustrait l'humanité de tous ses rapports humains. Et c'est ça la tragédie, c'est que les deux marchent ensemble. Il a fallu qu'elle devienne cruelle pour devenir une chef d'orchestre digne de ce nom.
Mais ce qui vaut pour l'art vaut aussi peut-être pour toutes les grandes carrières de femmes, peut-être même dans le sport, l'entreprise.
Ouais, c'est ce qu'on dit traditionnellement, qu'une femme, effectivement, les femmes de pouvoir qui accèdent à un certain pouvoir, elles ont dû s'armer d'une sorte de froideur comme ça, en tout cas d'insensibilité, pour pouvoir presque conjurer en elles la sensibilité qu'on attribue à leur sexe. Et oui, c'est ce qu'on dit. Mais là, je pense que dans l'art, c'est quand même plus profond que ça. Il y a vraiment l'idée, notamment dans la musique classique, qui demande un investissement fou. Oui. Et cet investissement émotionnel fait que je ne peux pas dépenser mon capital émotionnel dans ma vie personnelle. Et donc, je suis obligé d'avoir des rapports non émotionnels avec autrui, y compris donc avec les femmes avec lesquelles je couche.
Tu connais bien la musique classique, hein?
Non, pas tant que ça, non. Mais ça me fascine beaucoup.
Parce que pour chef d'orchestre, il faut une capacité de mémorisation qui est hors du commun. En plus de l'oreille absolue. Hein.
Mais je pense qu'on est tous, même des gens comme moi, un peu béotiens en musique classique. Bon, j'en écoute comme ça, mais je suis très superficiel. Mais je pense qu'en fait, le tout venant, nous les gueux, on est tous très impressionnés par ce que c'est qu'un chef d'orchestre. Je pense que ça, c'est... Non, mais je veux dire, la virtuosité que ça nécessite n'échappe à personne, en fait, je pense.
Il y a des gens qui pensent que juste le mec, il s'agite.
Ah oui. Bah oui. Bon, bah si les gens pensent que le mec il agite juste sa baguette, oui, c'est un peu pauvre.
Non, mais qui a un côté juste théâtral, parce que comme les musiciens ont leur partition devant eux.
Oui, moi je pensais ça quand j'étais petit, c'est vrai. Mais ma maman me disait, non, il dirige vraiment.
Non, je disais que tout à l'heure, le film il contenait des choix esthétiques inédits.
Ah bon ?
Ouais. Notamment, bah, tu sais, le premier tiers du film avec ces trois gros entretiens là, qui duraient 10 minutes. Moi j'ai rarement vu ça au cinéma.
Donc les trois entretiens, rappelle-nous, c'est la masterclass, c'est le dialogue entre Kaplan et elle au resto.
Exactement.
Et le troisième,
c'est le cours avec Max,
ouais,
à la Juilliard School.
Tout à fait, c'est vrai qu'il commence par là, c'est fou. Ouais.
Et puis même le générique là, dont tu parlais, juste après le plan de smartphone. Mais il y en a un autre.
Il y en a un autre,
bah, c'est celui du personnage principal. Mm-hmm. C'est un choix esthétique inédit quand même.
Pourquoi?
Bah, pendant la discussion avec le journaliste au début, le film... il dit qu'il est rare d'avoir eu dans l'histoire des femmes chefs d'orchestre connues. Bah, du coup, plaquée au cinéma, cette Lydia, elle est une rareté au carré, puisqu'on a une femme chef d'orchestre, et deux, une femme de pouvoir, donc relativement machiavélique, dotée d'une grande acuité artistique, j'en parlerai. Et donc cette hybridation entre femme lesbienne et art, entre art et personnage de dominant habituellement réservé aux hommes, bah, ça donne encore une fois du jamais vu au cinéma, mais surtout ça donne du volume au scénario.
Dans quel sens ?
Bah, qu'on ait ce personnage-là qui soit un petit peu le catalyseur, en fait, des nœuds narratifs auxquels on assiste, en fait. Alors, j'ai un extrait qui réunit ce que je viens de relever. C'est une des répétitions de l'orchestre de Tard à Berlin de la 5e de Mahler. Juste un petit crescendo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut me regarder. C'est totalement libre ici, d'accord ? Ça doit être comme une seule et même voix qui chante de tout son cœur. Vous jouez comme si c'était un exercice. Alors dans cet extrait, il y a trois enjeux. Il y a d'abord ce qu'on entend, hein, la direction de l'orchestre jouant la 5e de Mahler, et puis il y a ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est ce triangle amoureux entre d'un côté Tard et la jeune Olga, et de l'autre, un début de jalousie côté Sharon, la compagne de Tard. Du coup, cette scène, elle rejoint ce que je disais sur le volume de jeu narratif adossé au personnage, puisqu'on a trois lignes de tension en une situation. Hein, la musique, et puis il y a deux intérêts amoureux contradictoires avec le pouvoir donc en toile de fond. Après, dans le même esprit où Field densifie le récit à partir des ambivalences de l'héroïne, il y a ce qui se joue du côté de son acuité auditive. Hein, tous ces moments dans le film où on la voit perturbée par des sons parasites, le métronome qui la réveille chez elle pendant son sommeil, le tremblement de l'habitacle quand elle conduit, ou l'appareil médical de sa voisine. Et là, j'ai beaucoup pensé, tu sais, à Phantom Thread, le film de Paul Thomas Anderson.
Non, je vois pas du tout. C'est quoi ce film ?
C'est un super film.
C'est vrai ?
Ouais,
je cours le voir.
Je pourrais te l'emprunter en DVD, là, en bas.
Ah, c'est sympa.
Ouais, donc dans ce film de pitié, Alma, la compagne du couturier Reynolds, elle beurre ses tartines au petit déjeuner, pendant que Reynolds y dessine.
Ouais, et ça le dérange.
Et ça l'irrite,
en
fait.
Il n'aime pas ça.
Tu vois, il sent le contact du couteau sur le pain.
Après, je pense que c'est aussi, en l'occurrence, parce que c'était un tout petit peu un symbole de la conjugalité, tu vois.
Ah, peut-être
la
aussi,
petite routine du matin, avoir une femme le matin à sa table, alors que lui, il est complètement pris dans les choses de l'art. Enfin, c'était un peu ça aussi.
Mais après,
mais de fait, oui.
Ouais, parce qu'après, il y a une scène où on la voit, elle tartine, mais beaucoup plus doucement, parce qu'elle a compris qu'il fallait pas recommencer.
Mais ça y est, c'est comme les tyrans finissent toujours par mettre tout le monde au pas. C'est ça que ça montrait aussi, quoi. Tout le monde s'aligne toujours sur les tyrans. Ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe dans, dans la Philharmonie de Berlin. Ils sont habitués à ce que Lydia fasse son petit dictateur domestique.
Et donc, à travers tous ces moments d'acuité auditive, on a à la fois la force et la faiblesse du personnage, à savoir donc une grande sensibilité au son, mais aussi une forme d'autisme. Et cette ambivalence sensorielle, elle renvoie à l'ambivalence plus fondamentale du personnage, qui est aussi, donc on le disait, entre chaud et froid, entre affection pour ses proches et sa solitude, ou les dérives de sa position dominante. Alors, je finis juste sur le traitement de l'espace. Excepté la fin, le film y montre globalement un personnage d'intérieur, filmé dans des intérieurs, dans son monde à elle, en quelque sorte, puisqu'on est avec elle dans des lieux d'exception. Ses deux grands apparts, sa voiture ultra silencieuse, la salle philharmonique. Et donc, par ricochet, émane de ces lieux une douce étrangeté. Par exemple, l'architecture contemporaine des pièces amplifie la qualité des cadres, de l'acoustique, des modes d'apparition des personnages. Et donc, le résultat de ce travail sur l'espace greffé à la composition de l'héroïne, c'est d'avoir non seulement des perspectives de cinéma inédites, en termes de cadres, en termes de découpage, mais surtout captivantes, en fait.
Je pense que ça serait un autre aspect de ce que j'appelle l'art objectif, qui est peut-être un pléonasme, mais de ce film. C'est que dans ce film, tout passe par l'espace. Finalement, bon...
Tu me disais en off que tu aurais pu commencer la critique par l'espace.
Ouais, bah oui, parce qu'en fait, finalement, en bonne logique, si tu veux, quand on analyse un film, on peut commencer par le contenant, puis après on va au contenu. Et le contenant, c'est toujours l'espace. Et ce que fait toujours un minima un film, son travail un peu élémentaire, et qui constitue le cinéma comme tel, c'est de composer un espace. Même quand tu es un piètre cinéaste, tu composes toujours un espace parce que tu as une caméra... Et ça va consister à cadrer un espace. Puis après, au montage, tu vas composer un espace général en alignant des plans. Alors, il se trouve que ce travail presque immanent du cinéma, presque intrinsèque au cinéma, est parfois particulièrement mis en avant par un cinéaste. On l'avait dit un petit peu sur Glaser, dont on disait, tiens, c'est un art de l'espace, et donc c'est un art particulièrement cinématographique par tous les pores, quoi. Bon, là, c'est le cas de Todd Field aussi. Je crois que ce film, on pourrait très bien le voir d'ailleurs. C'est toujours un bon test que j'ai pas fait, mais j'invite chacun à le faire. Regardez le film en muet. Ça marche. On voit très bien ce que raconte le film, rien que par ses décors, ses intérieurs et sa découpe générale de l'espace. Parce qu'en fait, il y a un récit de l'espace dans le film, quoi. Mais c'est la moindre des choses, puisque je n'ai cessé de dire, et toi aussi, que nous avions affaire à un film qui met en avant des structures. C'est quoi une structure ? C'est un milieu dans lequel on évolue, en fait. C'est toujours un espace dans lequel on évolue. C'est toujours un peu ça, une structure. C'est toujours un peu comme ça que ça s'incarne, en fait. J'appartiens à un milieu. J'évolue dans un champ, au sens bourdieusien du terme. Et ça va se concrétiser par des espaces que je traverse. La pensée structurelle, qui est peut-être aussi la pensée sociologique en général, ou la pensée sociale, c'est dire, dis-moi dans quels espaces tu évolues et je te dirai qui tu es. Parce que ces espaces te font. Voilà. Mais de façon très physique. C'est pas simplement... je suis dans la bourgeoisie, donc je suis dans les espaces bourgeois, donc c'est normal, voilà, parce que c'est ma classe. Non, ces espaces, ils ont une facture, ils ont une physique, et ce physique devient ton physique. C'est exactement ce que fait le film. On a l'impression vraiment que...
Notamment sur la froideur.
La froideur, évidemment. Todd Field, pour composer le personnage de Lydia Tár, s'est aidé évidemment de la composition de Cate Blanchett. J'imagine qu'ils se sont beaucoup concertés l'un d'autre. Mais que tout ça a toujours été indissociable des espaces dans lesquels elle évoluait. C'est comme si vraiment ils concevaient toujours, il y aura Lydia dans le plan, puis il y aura ce plan-là, et ça dira tout. Voilà. La personnalité de Lydia, qui s'exprime très peu, d'ailleurs, qui fait très très peu de confidences psychologiques sur elle-même, sa psychologie, elle est dans l'espace, quoi. Donc il suffit de regarder les espaces que traverse le film et on aura tout compris. Et ils ont plusieurs caractéristiques qu'on peut égrener rapidement. Premièrement, c'est des espaces luxueux. Quand on mange au resto, c'est pas au McDo.
Non.
Ça fait des corps,
c'est pas dans un kebab non plus.
C'est pas dans un kebab. Ni un tacos. Ça finit par façonner des corps. Puis ça donne son identité au film. Nous ne traversons que des espaces extrêmement côté. Ce qui fait d'ailleurs le charme du film, parce qu'on aime bien évoluer dans ces espaces-là, aussi prolétarien soit-on. Hitchcock l'avait bien compris, hein, qui a placé beaucoup de ses scénarios dans la grande bourgeoisie, dans l'aristocratie, parce que ça permet d'avoir des manoirs, des châteaux, des grandes villas sur la Côte d'Azur, par exemple, des beaux hôtels, tout ça. Là, ça fait partie du charme du film. Donc, on est dans le luxe. Mais il n'y a pas seulement ça.
Des architectures ultra contemporaines.
C'est vrai, qui vont bien avec cette espèce de néo-bourgeoisie. Laquelle néo-bourgeoisie a pour caractéristique presque attitrée maintenant d'être un peu, comme on dit, mondialisée, déterritorialisée, on pourrait dire, en tout cas désincarnée. Et le film organise très bien ça. Parce qu'au départ, on est à New York, mais on ne dit jamais qu'on est à New York, mais évidemment, on comprend.
La transition est folle entre l'avion et l'ascenseur de son appart.
Bien sûr, c'est génial de passer à Berlin sans en passer par les extérieurs et sans avoir signalé qu'on arrivait à Berlin, parce que finalement, et d'ailleurs Lydia le dira, là il y a quand même un petit dialogue à un moment qui est un peu expressif et qui donne un petit peu le sens, et elle dit nous n'avons pas de patrie, notre patrie c'est l'estrade. Elle le dit pas comme ça, mais c'est ça qu'elle dit, l'estrade, c'est-à-dire ce sur quoi se juge le chef d'orchestre. Bah oui, bien sûr, la vie de Lydia c'est quoi? C'est Paris, c'est Berlin, c'est Paris, il y aura deux allers-retours, enfin il y aura un aller-retour, et puis à un moment, New York pardon, et alors il suffit pas de le dire, il suffit pas de le décréter en montrant, voilà, il faut le faire ressentir par le spectateur. Et nous ressentons ça, ce que ça doit être un corps mondialisé, un corps un peu hors sol en quelque sorte, qui passe finalement de ces villes à d'autres de façon un peu indifférente, c'est à peu près les mêmes espaces. Bon.
Il y a des villes qu'on ne voit pas trop d'ailleurs. Justement.
Des villes qu'on ne voit pas, mais pour une raison simple, c'est que la deuxième opération du film, qui est une opération très physique et qui tient par la mise en scène et par le découpage, vraiment, quoi, sans aucun décret, c'est qu'on est en intérieur tout le temps. Et alors même quand il est fort, et ça t'es très pensé, quand on est un metteur en scène, il faut penser à ces choses-là. C'est comme ça que vous construisez l'identité d'un film. Nous sommes à New York au début, et elle va se retrouver à Berlin. N'importe quel blaireau aurait eu le réflexe de montrer l'avion de l'extérieur. Il ne le fait pas.
Tu n'aimes pas, hein, ce plan de
l'avion de l'extérieur. Oui, j'aime pas tout ce qui est mécanique et scolaire. Mais bon, des fois, j'en accepte le principe. Même Soderbergh a dû faire ça, tu vois, ou d'autres grands. Mais ce que je veux dire, creusez-vous un peu la tête, essayez de construire quelque chose quand vous avez un déplacement à signifier. Ben là, il s'est creusé. Il s'est creusé, Todd Field, et il fait deux trucs. D'abord, il ne fait pas le plan extérieur de l'avion, on a juste un plan intérieur de l'avion. C'était donc à l'intérieur. Elle est toute seule, d'ailleurs, dans une espèce de jet à peu près privé.
Je pense qu'elle est en business.
Elle est bien seule, je trouve, mais bon, admettons business. Mais surtout, il y a un plan quand même de taxi.
Il y a un plan de taxi avec
pour aller du centre de New York à l'aéroport.
Mais sauf que un tunnel.
Ben oui, il a eu l'intelligence de prendre le tunnel. Donc on reste à l'intérieur, puis après on sera à l'intérieur du taxi. Mais tout est comme ça. Donc il a construit ça. Ça, c'est des constructions d'espace. C'est comme ça que tu induis dans le corps même du spectateur que décidément cette femme-là ne voit jamais le jour, ne voit jamais le dehors. Il n'y a plus de dehors pour elle, il n'y a plus d'extériorité. Comment veux-tu d'ailleurs que ça ne conditionne pas un tempérament très narcissique et autocentré, puisque tu es toujours en vase clos. Bon. Mais il y a une deuxième caractéristique de ces espaces. C'est qu'ils sont, je dirais, hors sol. Hors sol, mais concrètement, ils sont sur un coussin d'air. C'est-à-dire que si tu regardes un petit peu le son de tout, tu l'as un petit peu effleuré. Hein.
Oui.
Mais quand elle est dans l'avion, on n'entend pas le bruit de l'avion. On croit même qu'on est à l'arrêt. D'ailleurs, on est souvent à l'arrêt, mais pas que, on ne peut pas savoir. Et puis, c'est très stable. Il n'y a pas de soubresaut. Comme si, finalement, il n'y avait pas d'espace, en fait. Il n'y a pas de friction avec le réel, de frottement avec le réel.
De physicalité.
Oui, tout à fait. C'est un monde aphysique, en quelque sorte, ce qui est quand même assez fou. Quand elle est dans une bagnole, il y a quand même des scènes de bagnole. Ouais. On n'entend rien.
Ça pourrait presque être une pub pour la marque.
Ouais, absolument. On dirait des pubs. Ça me rappelle Parasite aussi, où il y avait un petit peu ce truc-là, où pour signifier le hors-sol de la bourgeoisie, on montrait que finalement, on était sur une espèce de coussin d'air qui faisait que même la tasse de café ne pouvait pas se renverser. Enfin, un truc comme ça. Une très belle trouvaille de Parasite. Voilà, c'est pareil. Et donc, tu as ça pratiquement pour tout. C'est-à-dire que ce soit pour le taxi, la voiture, le truc, c'est complètement insonorisé. Mais d'ailleurs, évidemment que si on est en train de faire le détail des espaces dans lesquels évolue Tard et qui la façonne, ce sont bien sûr des espaces insonorisés, notamment la Philharmonie. La première chose que se demandent toujours les architectes qui sont en train de construire ce genre de lieu, c'est comment on peut insonoriser. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de parasitage, évidemment, du son extérieur, puisque là, le son ici est une religion, donc il ne faut surtout pas de parasitage. Mais de fait, la conséquence et que Lydia est toujours, oui, sur coussin d'air. Bon, après, il y a évidemment un autre aspect. J'ai parlé d'intérieur, elle est toujours à l'intérieur, mais il faut ajouter une autre dimension qui est absolument construite par Todd Field, par sa direction artistique, c'est-à-dire par le travail de décor, en grande partie. C'est que ce sont des espaces sans fenêtres.
Oui.
Eh oui.
Enfin, surtout dans la Philharmonie, quoi.
Ah ben, dans la Philharmonie, mais dans tout le début du film, il n'y a pas de fenêtres. y compris dans l'appartement.
Il y a des baies vitrées, mais à certains
endroits. Non. Les premières scènes d'appartement, j'ai bien regardé. N'auras jamais de baies vitrées, de fenêtres, de machin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le premier truc qu'elle fait quand elle arrive dans l'appartement, je parle bien des premières scènes d'appartement, première heure du film. Ouais. Premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle allume les lumières. Tu sais, ou non, elle les éteint. Elle les éteint et elle dit, bah, dis donc, t'as un contrat avec l'électricité, je sais pas quoi. Ou l'inverse.
Et bon. D'ailleurs, la lumière, elle s'allume de façon hyper progressive. Quoi.
Tout à fait. Et c'est bien montré qu'on est toujours en éclairage artificiel. Il n'y a rien de naturel. La lumière naturelle n'existe pas dans tous les espaces que traverse Lydia. C'est toujours parce qu'il n'y a jamais, de fenêtres, vraiment. Quoi. Y en a pas. Elles apparaissent un moment dans le film. Mais pendant tout un pan du film, il n'y en a pas. Dans le bureau, par exemple, son bureau est complètement... Ouais, voilà.
C'est vrai.
Mais c'est ce qu'on pourrait dire, un espace confiné. C'est marrant, à un moment, il est question du confinement, parce que je pense qu'ils ont dû tourner à peu près autour d'eux. Mais c'est un film confiné. Lydia est confinée. Elle évolue dans des espaces confinés. Et puis, il y a un moment où, à partir d'ailleurs de sa destitution... Ça change un peu. On va voir apparaître des fenêtres. Mmh. C'est très mécanique. À partir du moment où tu as vu ça dans le film, tu vois que ça. Ouais. Hein. Moi, quand ça m'est venu...
C'est vrai que ça m'a frappé quand elle est dans ce pays asiatique où elle ouvre la fenêtre de sa chambre d'hôtel.
Et non seulement elle ouvre la fenêtre, c'est la première fois qu'on la voit près d'une fenêtre, mais elle l'ouvre et en plus, on a un travelling avant sur la fenêtre. Là, c'est signifiant, je dirais, tu vois, que vraiment la fenêtre, c'est important, qu'à ce moment-là, elle est en train d'accéder au dehors. Bon, mais même avant ça, à partir du moment où elle est destituée, on voit apparaître des fenêtres. Par exemple. La première fois qu'on voit, je pense, une baie vitrée justement dans la Philharmonie, c'est précisément au moment où on la convoque dans une salle de réunion pour lui dire ça commence à chauffer pour toi. Ça commence à mal aller parce que voilà, l'attaché de presse lui parle, etc. Et là, il y a une baie vitrée. Après, quand elle sera à New York et qu'elle aura une réunion pour déposer, il y aura une baie vitrée et on verra quelques immeubles de New York. Et tu l'as bien dit, quand elle se retrouve en Asie, là, on est vraiment en plein air. Donc le film travaille vraiment ça. Donc comme d'habitude, il essaie de te faire passer les choses sans te les signifier. Alors après, il faut dire que, en gros, le fait narratif qui consiste à dire « maintenant elle va être destituée » correspond en mise en scène au moment où l'extérieur s'invite dans le plan. Voilà. Bon, d'ailleurs, Olga, qui est un peu celle qui aurait dû devenir sa proie, et c'est celle qui résiste. Olga ne se donnera pas. Parce qu'elle est un peu féministe, parce qu'elle est un peu moderne, parce qu'elle le dit, elle en a rien à foutre des chefs d'orchestre. Donc elle n'est pas du tout fascinée par Lydia.
Et alors, puis elle est un peu brute de pomme dans le sens où... tu le vois ça déjà quand il y a le premier déjeuner un petit peu, ou comment elle tient ses couverts.
Elle n'est pas du tout impressionnée.
Ouais.
Alors qu'on voit bien que Lydia a eu les précédentes proies, exactement comme Olga, puisque ça succède et ça se remplace, comme ça. Elle les a impressionnées, elle les a emmenées au restaurant très impressionnant. Elle-même est impressionnante comme chef. Eh ben, Olga n'est pas impressionnée, donc ça n'opère pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant comment elle lui résiste à New York. Enfin, c'est très, très bien. C'est encore très bien raconté.
Ouais.
La façon dont elle l'emmène à New York. Donc, on comprend qu'elle a emmené Olga à New York comme elle le fait avec toutes les
d'ailleurs,
autres.
D'ailleurs, on ne le sait même pas, en fait,
bien
au départ.
Bien sûr, on ne le sait pas.
Parce qu'au moment de la déposition, on ne sait même pas qui elle a emmené.
Voilà.
Après.
Dans l'avion, d'ailleurs, elle dit « j'attends quelqu'un ».
J'attends quelqu'un.
Mais oui, mais parce que... L'habitude, elle a toujours fait ça, en fait. On comprend que c'était ça, son système. Ce que font tous les prédateurs, d'ailleurs. Toujours exfiltrer les proies de leur biotope naturel pour qu'elles soient loin de tout. Et par ailleurs, compartimenter. Je vais faire ça à New York, comme ça, ça se saura pas. Et bien là, ça marche pas. Elle va être même, je pense, celle qui envoie les textos caustiques. Mais Olga, c'est quoi ? Olga, concrètement, dans le film, elle fait quoi à un moment ? Elle attire... objectivement, Lydia à l'extérieur. Il y a un moment, elle la dépose, Lydia la dépose... Et elle oublie sa peluche, ou un, je sais pas quoi, un doudou.
Oui, une peluche, un petit ourson.
Et pour poursuivre Olga, Lydia est obligée de sortir. Oh, elle sort de la voiture.
Ouais.
Et elle se retrouve en plus dans le pire des réels, du réel au cube. C'est-à-dire, non seulement c'est de l'extérieur, c'est du réel. Elle qui s'essuie les mains, tu sais, quand elle va au chiottes dans l'avion, là, elle fait partie de ces gens qui essuient toujours les poignets avant. Et là, elle se retrouve dans un truc où il y a
pire,
tout.
Le
quoi.
Pire c'est... de Berlin-Est, quoi.
Ouais, c'est ça, ces trucs de gauchos, plus ou moins hippies, tu sais, qui vivent en squat. Il y a de l'eau par terre. Mes murs sont taillés, ça pue, il doit y avoir des rats, etc. Donc là, elle se prend une giclée de réel dans la gueule, en quelque sorte. Et c'est ça qu'elle a toujours voulu éviter, surtout jamais de réel. Et c'est par Olga que c'est arrivé. Mais c'est ça que raconte, en fait, toute la deuxième partie du film. C'est comment, peu à peu, elle va être gangrénée par l'extériorité. L'extérieur s'invite dans l'intérieur. Après, il y a deux autres éléments, un petit peu dans le même sens, j'essaie d'aller vite, qui sont comme ça, une espèce de contamination du plan confiné par l'extérieur. Bah, tu l'as dit, ça passe beaucoup par le son. Elle qui a voulu insonoriser sa vie, il y a des sons qui vont s'inviter dans sa tête. Quoi. À un moment, elle entend un cri de femme quand elle fait un footing. Pour ce cri, existe-t-il, n'existe-t-il
dans
pas
le parc, là, ouais.
On peut supposer que c'est un peu Christa. parce qu'elle a l'air d'être hantée par Christa, quand même elle a un peu une mauvaise conscience. D'où la première question. Cette femme a-t-elle encore une conscience? Oui, puisqu'elle a mauvaise conscience. Quand même, elle n'est pas complètement à l'aise avec ce qu'elle a fait avec Christa. Donc elle a encore peur. Elle fait des cauchemars. Tu vois, le cauchemar, c'est pareil, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'invite dans ton quotidien et dans ta familiarité, le cauchemar. C'est une giclée d'extériorité au fin fond même de ta psyché et de ton sommeil. Et même ça, Todd Field, il le fait hyper bien. Le mec, il sait tout faire, en fait. Parce que t'as deux cauchemars, et à chaque fois, c'est super bien fait. L'un par une succession de plans, et l'autre par cette
du
image
flou,
super...
C'est du flou en noir et blanc?
Non, dans mon souvenir, c'est pas en noir et blanc, mais je pourrais pas l'affirmer. Mais je me souviens mieux de la deuxième image de cauchemar, qui est un truc super, une très belle invention simple, un lit sur un fleuve et qui s'enflamme.
Ah ouais.
Mais c'est super, quoi. Et ça la réveille, évidemment, parce qu'elle croit elle-même que c'est son lit. Mais même ça, il sait faire. Je note, hein, pour les prochains films de Todd Field, je pense que le mec, il en est sous le pied. Hein. Bon. Bref, ça s'invite, tout ça. Et puis, donc, par le son, comme tu l'as très très bien dit. Et puis, il y a une dernière chose que j'aurais à dire dans le genre. Par quoi va venir véritablement la déchéance? Elle va venir par Internet, comme disent les gens de mon âge. Par le web. Je dis ça aussi. La première fois que l'affaire Christa commence à repénétrer sa vie alors qu'elle aurait voulu la solder, c'est par des mails. C'est des mails qui sont compromettants.
Qu'elle demande à Francesca d'effacer.
Voilà. Ouais. Elle va même piquer l'ordinateur de Francesca.
Pour vérifier si elle a effacé. Ouais.
Mais plus généralement, par où ça va arriver? Ben, beaucoup par les réseaux sociaux, comme on dit. Puisqu'à un moment, évidemment, elle va se prendre une espèce de bad buzz par le réseau. Et c'est encore une giclée d'extériorité. C'est l'extérieur qui la pénètre par ce truc qui ne peut pas être cloisonné et qui s'appelle Internet. C'est la porosité de tout avec tout. Le réseau social, c'est la liquidité, c'est le liquide. Et le liquide, eh bien, il est inarrêtable. Aucune cloison ne peut arrêter le liquide. Donc on a une dialectique qui se met en place. L'affrontement final, c'est l'affrontement entre Lydia, la boumeuse, l'anti-woke. Lydia, celle qui a des grandes protestations d'universalisme. Il faut arrêter avec l'identité. Il faut s'élever à l'universalité des œuvres. Parce qu'elle, elle n'a pas de corps, Lydia. Elle n'est que communion avec les grands musiciens. Ben là, ce qui va faire retour, c'est son corps. Ce qui va faire retour, c'est le réel. Ce qui va faire retour, c'est l'ancrage dans le réel. Et son propre réel de son corps, qu'elle a voulu un petit peu reléguer hors champ et qui maintenant est mis sur la place publique. Donc, la dialectique, c'est ça. Mais la dialectique, c'est aussi immédiatement une dialectique de l'espace. Vous savez, quelqu'un qui a voulu organiser sa vie avec des cases, c'est des cases et elles sont hermétiques les unes aux autres. Arrive une espèce de puissance inendiguable qui s'appelle Internet. Et là, elle est foutue parce qu'il n'y a pas de cases sur Internet. Tout pénètre tout. Donc le débat entre la boumeuse et les woke devient immédiatement un débat de l'espace et de gestion de l'espace. En fait, c'est des conquêtes comme ça de l'espace. Et là, je finirai par le début. Le grand ennemi de Lydia, c'est le portable. Elle avait interdit des portables dans ses cours. Ça nous est dit un moment.
Oui, oui, oui.
Mais quelqu'un a transgressé cet interdit et donc a pu filmer la fameuse séquence
à son insu.
Et évidemment, elle se prend à ce moment-là un mauvais procès. Elle se prend quoi? Un montage mensonger, un petit peu à charge. Nous avons vu la séquence dans son entier. On a vu qu'elle s'y est mal comportée comme une sadique, mais on a vu quand même qu'elle avait une part de vérité et qu'elle avait quand même une position à défendre qui était quand même assez fine. Et là, bah, le petit montage qui a été fait de son truc, c'est chose qui arrive à tout le monde dans notre époque... où Internet est devenu le centre.
C'était peut-être déjà arrivé, non?
Oh non, moi, si peu. Tu sais, moi, je n'ai aucune notoriété. Mais des gens vraiment célèbres, des gens vraiment importants, pas moi. Et donc, elle, qui a toujours voulu cadrer sa vie, proposer sa propre mise en scène, elle subit une contre-mise en scène, un contre-montage. Et c'est ça qui va la planter. D'où l'importance de ce premier plan qui est décidément un plan de génie, le plan de portable. Parce qu'il y a déjà tout ce qu'on en a dit, l'objectivation, on ne sait pas qui l'envoie... Francesca, Olga, grand débat, mais au bout du compte, ce qui est important, c'est qu'on sache pas, parce que seules les structures importent et seuls les processus, mais surtout, ce premier plan contient tout le film. Parce que c'est ce petit appareil, ce petit portable, c'est l'arme du crime, en fait. C'est l'arme de la vengeance. Parce que toi, Lydia, qui a voulu cadrer tout le monde, d'ailleurs, tu recadres souvent les gens parce que tu as du pouvoir, et bien maintenant, c'est toi qu'on cadre. C'est toi qui es passé dans le petit objet et on va t'opposer une contre-mise en scène. Donc ça, c'est la marque des grands films aussi, d'arriver à faire en sorte que leurs enjeux psychologiques, leurs enjeux thématiques, leurs enjeux narratifs soient immédiatement des enjeux de mise en scène. Et c'est le cas.
Allez, on retrouve la partie interactive. On commence avec note de Real Spike qui demande si le jeu produit par Cate Blanchett se hisse à la même grandeur et puissance de composition qu'on retrouvait chez Isabelle Huppert dans le film La Pianiste. La Pianiste qui est donc le film de Michael Haneke.
Ben oui, on y revient, voilà, tu vois. Les grands cinéastes se rencontrent. Non, je suis content qu'on fasse allusion, enfin qu'on puisse mentionner cet immense film de Haneke, qui en a fait quelques-uns d'immenses films. Et oui, il y a quelque chose de très proche. Alors, dans la composition, dans ce que propose Isabelle Huppert et dans ce qu'on propose Kate Blanchett, d'ailleurs, on est à peu près dans la même gamme d'actrices. Ouais. Et c'est vrai qu'on est à peu près dans le même genre de prestations. Peut-être plus de composition, d'ailleurs, du côté de Kate Blanchett, alors que, d'une certaine manière, dans La Pianiste, on retrouve Isabelle Huppert telle qu'on la connaît, avec son génie propre, à tous les sens du terme. Alors que là, Kate Blanchett, on voit bien qu'il y a quelque chose d'une rencontre folle entre un rôle et une actrice, comme il arrive assez rarement dans une carrière d'actrice.
Elle a beaucoup bossé hein, sur ouais, non, mais le classique.
Fait, de fait. Mais ce n'est pas ce qui m'impressionne le plus dans le truc, parce que ça, c'est du travail, ça, c'est de la performance, c'est pratiquement c'est la méritocratie faite actrice, quoi. Oui, donc on voit bien qu'elle a bien bossé pour que ce soit crédible quand elle dirige la manœuvre et quand elle mène à la baguette son orchestre. Mais ça, je m'en fous un peu. Même si évidemment ça participe quand même de la crédibilité du film, donc du fait qu'on soit bien dans ce film. Donc merci Kate d'avoir fait ce travail. Non, c'est plutôt sa façon de se tenir, sa façon de. Et ce que j'aime beaucoup dans sa prestation, mais c'est pas une actrice que j'adore en général, Kate Blanchett, voilà. Et là, je l'aime beaucoup et je la trouve irréprochable parce que au bout du compte, elle en fait pas beaucoup. Elle est aussi froide que son rôle et que la facture de Todd Field.
Moi, j'avais un peu peur au début dans le couloir, quand elle avait ses petites mimiques, ses petites facios.
Oui, oui, on sent que ça fait trouvaille d'acteur, ça. Et qu'est-ce que t'en penses, Todd, si elle avait des mimiques, si elle avait des tics? Je me suis un peu dit ça. Et après, c'est pas vrai. Je trouve qu'elle sursignifie rien du tout, elle surjoue rien, elle n'essaie pas toujours d'exprimer par son visage plein de choses, peut-être bien aidé en cela par un personnage qui précisément est un peu poker face et ne cesse de dissimuler ses sentiments. Et donc de la même façon que Lydia dissimule ses sentiments et sa vie affective, eh bien Kate Blanchett a eu la bonne idée de dissimuler, disons, le petit cirque expressif auquel on a droit quand on regarde pas mal d'acteurs. Donc je suis très content. En cela, elle rejoint une certaine capacité d'impassibilité d'Isabelle Huppert, et pareil, elle a une certaine froideur. Puisqu'on parle de La Pianiste, vraiment j'incite chacun à regarder ce film, qui comprend des scènes complètement dingues, complètement dingues.
Avec Benoît Magimel aussi.
Avec Benoît Magimel, notamment une scène de sexe entre Magimel et Huppert, vraiment je vous la recommande. Dans les vestiaires d'un club de hockey sur glace. Mais le film est passionnant sur la musique aussi. Parce que La Pianiste, elle est très versée dans Schubert. Et c'est très intéressant sur ce que c'est qu'une passion musicale. L'absorption, la capacité d'absorption de l'art. Parce que c'est à peu près le même genre de personnage de ce point de vue-là. Toutes choses égales, parce qu'elle n'est pas vraiment en posture de dominante, pas comme Lydia Tarr. Mais elles ont quand même un point commun, c'est d'avoir mis, je pense, effectivement, toute leur sensibilité dans la musique. Ce qui fait que, par ailleurs, elles sont pratiquement des handicapées de la sensibilité, comme on dit de certaines personnes. On gagne beaucoup à, un, voir tard, et deux, ben, le jour d'après, voir La Pianiste.
Et puis on conclut avec Maxime. Est-ce que l'utilisation et la représentation des matières qui entourent tard disent quelque chose du déclassement social qu'elle subit? Alors lui, dit entre parenthèses,
C'est la parenthèse qui m'intéresse.
Énormément de bois sur la majeure partie du film, puis progressivement l'arrivée de plastique et de matières synthétiques.
Mais moi, je suis très content d'avoir lu cette question et je n'ai rien à répondre. Je n'ai que mon admiration à dire parce que, un, je trouve que c'est un très bon réflexe de faire une lecture matérielle des films. Je ne sais pas moi qui vais dire le contraire. Et parfois, faire une lecture matérielle des films, j'essaie toujours, moi, d'essayer de donner la morphologie des films et la physique des films. Mais je pense que ça passe aussi par les matériaux qu'on voit dans le plan. Et ce serait très intéressant toujours de prendre un film par là, déjà. Que d'ailleurs, ce soit prémédité par le cinéaste ou pas. Parfois, il y a des effets matériels d'un film qui ne sont pas forcément voulus par le cinéaste. Là, je pense que tout est voulu, puisque c'est un film vraiment qui est très parcimonieux sur la disposition de ses décors. On voit bien que ça a été 50% de son travail, quoi. Et donc, oui, moi, je n'avais pas du tout vu qu'on a plutôt du bois au début et plutôt du plastique à la fin. Mais ça me paraît, j'ai presque envie de revoir le film rien que pour ça, pour vérifier cette observation. Parce que ça me paraît effectivement très congruent et coïncident et cohérent avec le fil psychologique et thématique générale du film, à savoir, peu à peu, en fait, elle va être envahie par la modernité, par le contemporain, on va dire, parce que la modernité, c'est une notation plus évaluative, alors que le contemporain, c'est objectif, c'est le monde de maintenant. Oui. Et bah oui, le plastique pouvant connoter, même si on est en train peut-être éventuellement d'aller dans un monde post-plastique, on n'y est pas, hein, oui. Ça pourrait connoter de la même façon que les réseaux sociaux, de la même façon que Internet et tout ça, et que le portable connaîtrait une certaine modernité, en tout cas un certain contemporain plutôt, qui précisément ce qui va faire déchoir notre Lydia, qui elle est quand même effectivement plus campée vers une culture classique, vers un monde d'avant, vers les bigots austro-allemands.
Ouais. Et puis surtout, moi, sa question, elle me fait penser, en fait, comme il parle de déclassement social, en fait, on peut parler de noblesse de matériaux qui se... qui perdent en noblesse, justement.
Tout à fait, absolument. Ce qui va très bien avec la dernière scène, la dernière séquence, quoi, où on se retrouve dans un monde en plastique, un monde bas de gamme, les jeux vidéo, quoi. Ceci dit, sans aucun mépris pour les jeux vidéo, je m'empresse de le dire, parce qu'on va encore se prendre une shitstorm. Il y a des gens qui sont touchy sur ces questions-là.
Rassure les auditeurs.
Mais je pense que, tu vois, c'est des gens qui ont tellement intériorisé le fait que eux-mêmes, qu'ils étaient un peu dans le bas de gamme en jouant aux jeux vidéo, qu'ils croient toujours que tout le monde pense comme eux. Et qu'on les méprise dès lors qu'on en parle. Donc je pense que c'est à eux-mêmes de se mettre au clair par rapport à l'estime ou le peu d'estime qu'ils ont pour leur propre pratique. Voilà, je tenais à le dire entre parenthèses. Donc je n'ai rien contre les jeux vidéo, mais dans le système de signification du film, cette conclusion par une soirée en hommage du jeu vidéo est plutôt à mettre sur le compte d'un déclassement et d'une destitution par rapport à Lydia qui effectivement était plus portée vers une autre forme de musique.
Mais on rassure les auditeurs, ça nous arrive après les enregistrements de parfois de faire des petites parties de Mario Kart.
Ouais, à chaque fois, je te mets une mine dessus. Voilà.
On s'envoie des petites carapaces.
Ouais.
Merci François pour cette critique.
Ouais, écoute.
Très belle partition de ta part.
Voilà, il fallait le dire.
Prochaine gêne, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'on pourrait traiter une œuvre d'art qui pourrait être un film.
Un film, alors c'est vrai que moi j'avais pas pensé à ce film, il y a le Carrie Maynooz là qui sort prochainement, le jeu de la reine.
Ouais.
Mais alors je sais pas si t'as un bon feeling sur ça, mais...
Bah, nous on a aimé le film, le long métrage précédent de Carrie Maynooz,
qui
est un drôle de type qui est...
La vie invisible de Rédis Gusmão.
C'est ça, qui est un Brésilien, mais qui a un père kabyle et une mère brésilienne, mais il a grandi aux États-Unis. Ben, il l'a raconté d'ailleurs dans un documentaire qui est pas mal, hein. il raconte l'histoire de... Avec un documentaire assez super dont j'ai oublié le nom, hélas, je crois qu'il y a mère dans le film... En revanche, j'ai vu récemment un film qu'il a improvisé pratiquement, puis s'est retrouvé en Algérie au moment du Irak, que je prononce très mal, mais qui est donc le mouvement de contestation algérien d'il y a 3 ou 4 ans. Et il a fait un film pratiquement avec un portable, mais qui n'est pas super.
Après Eurydice Gusmão.
Ouais. Bah, c'était au moment du Irak, il faudrait vérifier les dates. Mais oui, donc ce long métrage pourrait être intéressant, mais on avait quand même prévu autre chose.
On avait prévu autre chose, ouais.
Après, à moins que tu n'aimes plus Amaguchi, peut-être que...
Donc le film s'appelle Le mal n'existe pas.
Ouais, drôle de titre.
Et que t'as déjà vu, en fait.
Mais oui, j'ai déjà vu le film.
Il y a de quoi, 2 mois, 1 mois?
Il y a 1 mois, ouais, j'ai eu ce privilège.
En exclu, quoi.
Ouais. Alors, je dirais pas que je l'ai vu avec le cinéaste, parce qu'il y a certains critiques qui, parfois, ils disent ça. Ils disent, ouais, moi, j'ai vu le dernier film de Michael Mann avec Michael Mann. Et les gens, ils disent ça.
Ouais.
Ouais, moi, je dirais pas ça. Parce que j'ai un peu de dignité.
Donc, c'est parti pour le Hamaguchi.
Bah écoute, moi, ça me paraît plaisir, pas mal, ouais. Moi je pense que tu vas l'adorer, ce film, je te le dis. C'est un film qui a été fait pour toi.
Ouais. Tu me l'as bien vendu quand même, hein, le Hamaguchi.
Ouais, je me porte garant.
Salut à tous, salut François.
Salut.